Merci à vous tous et à toutes d'être ici. Merci aux organisateurs. Merci pour ce délicieux déjeuner. J'aimerais parler de la distance chez Jean-Philippe Toussaint. Et j'avoue que depuis quelques décennies déjà, je lis les livres de Jean-Philippe Toussaint dans une situation assez particulière, perché de façon précaire sur le versant est des montagnes rocheuses, à 1600 mètres au-dessus du niveau de la mer. Lorsque de temps à autre, je lève mes yeux de la page afin de contempler la plaine à mes pieds, deux impressions me viennent comme par évidence. D'une part, une sensation de vertige. D'autre part, une impression de distance. Le vertige chez Jean-Philippe Toussaint. Voilà un beau sujet de conférence. Mais celui qui m'occupera aujourd'hui, c'est la notion de la distance. Il est possible, bien entendu, de concevoir la distance selon plusieurs manières différentes. La manière la plus simple, j'hésite à dire la plus littérale, parce que rien n'est littéral dans la littérature, si ce n'est pas la lettre elle-même. C'est en faisant appel, donc la manière la plus simple, c'est en faisant appel à l'idée de l'extension dans l'espace. Donc, nous pourrions dire que lorsque le narrateur de la salle de bain se trouve à Venise, il est loin d'Edmondson, qui se trouve à Paris. Ainsi, le narrateur de la télévision, qui nous dit qu'il habite normalement Paris, est loin de chez lui pendant son année sabbatique à Berlin. Et le narrateur de faire l'amour est loin de Marie lorsqu'il se trouve à Kyoto et elle à Tokyo. Autoportrait à l'étranger évoque cette notion dans son titre et propose des vignettes à Tokyo, à Hong Kong, à Berlin, à Prague, au Cap-Corse, à Kyoto, à Nara, au Vietnam, en Tunisie, des endroits très lointains, si on présume que le site référentiel, là où on ne serait pas à l'étranger en d'autres termes, serait Paris, ou quelque part, pas très loin de Paris. Présomption qui ne serait pas légitime dans tous les cas, au demeurant, comme nous allons le voir. Pour ma part, je ne suis pas persuadé que ces distances-là méritent qu'on s'y attarde. J'aimerais simplement les évoquer en suggérant qu'elles abondent dans l'œuvre de Jean-Philippe Toussaint et ensuite passer à autre chose, cette autre chose étant la distance conçue de façon différente. M'appuyant principalement sur la salle de bain, la télévision et faire l'amour, j'aimerais esquisser de façon très sommaire et provisoire, une typologie des effets de distanciation qu'on trouve dans ces ouvrages, ou une topologie, si vous préférez, sachant que ce terme peut désigner des rapports spatiaux aussi mobiles que ceux que nous trouvons dans le travail de Jean-Philippe Toussaint. La mobilité est inscrite dans le topo de l'étranger de manière indélébile, car l'étranger, c'est quelqu'un qui traverse un horizon sans jamais y trouver sa place. Dans la salle de bain, Toussaint interroge cette notion avec insistance. Son narrateur cherche un endroit où il se sentirait bien chez lui. Si ce n'est pas dans sa baignoire à Paris, ce serait peut-être à Venise. Si ce n'est pas à Venise, ce serait peut-être, réflexion faite, à Paris. À Venise, justement, lorsqu'il monte un tournoi international de fléchettes, nous apprenons que le narrateur est belge et qu'il serait par conséquent un étranger en France, ainsi qu'en Italie. Cela est définitivement confirmé dans une cruelle parodie du retour chez soi à Orly, lorsque le narrateur se fait rabrouer par une douanière antipathique. « Circulez, dit-elle, et n'oubliez pas que vous êtes à l'étranger ici. » La confrontation est emblématique. La douanière est parfaitement chez elle. Elle est même investie de la responsabilité de recevoir les étrangers, d'articuler les conditions de leur séjour, de veiller à ce qu'ils soient admissibles. Le narrateur est admissible, mais de justesse. Et cette admissibilité ne va certainement pas de soi. Il sort de cette rencontre plus étranger que jamais dans un sens. Je serais tenté de dire que ce moment définit l'horizon de possibilités pour les protagonistes dans tous les livres ultérieurs de Jean-Philippe Toussaint, car ils sont tous étrangers, comme si cette condition était une donnée existentielle fondamentale chez eux. Il faudrait sans doute faire appel à l'idée d'aliénation ici. Mais l'aliénation des protagonistes de Toussaint est tellement superbe qu'on commence à soupçonner que la notion même de l'aliénation est en procès ici, l'objet d'un jeu auquel Toussaint se livre et qui nous invite à partager. Car l'effet est exagéré jusqu'à la parodie et ce qui aurait pu être inquiétant devient du coup comique dès les premiers mots du texte. Je cite. Lorsque j'ai commencé à passer mes après-midi dans la salle de bain, je ne comptais pas m'y installer. Non, je coulais là des heures agréables, méditant dans la baignoire, parfois habillé, tantôt nu. Edmondson, qui se plaisait à mon chevet, me trouvait plus serein. Il m'arrivait de plaisanter, nous rions. Fin de citation. Le narrateur remarque peu après qu'il avait été chercheur qui côtoyait des historiens et des sociologues. Qu'il avait des étudiants, mais il est bien loin de tout ça maintenant. De même, le narrateur de la télévision choisit de vivre de manière assez inerte, à quelque distance de la vie active. Il dit qu'il ne fait rien et que cela demande méthode et discipline, ouverture d'esprit et concentration. En particulier, il se tient soigneusement à distance de son travail, le considérant comme une éventualité délicieuse et lointaine, une perspective plaisante à condition d'être, justement, au loin. Là où le jeu de Toussaint atteint son apogée, c'est sans doute dans les scènes de miroir, dans lesquelles ces narrateurs en viennent aux prises avec leur propre excentricité. Il y a plusieurs scènes de miroir dans la salle de bain, mais celle qui m'intéresse le plus, dans celle qui m'intéresse le plus, le narrateur se contemple, non pas dans une glace, mais dans une radiographie de son crâne. Je cite, « C'était un crâne blanc, allongé, dit-il. Les os frontaux se rétrécissaient à hauteur des tempes. Quatre plombages dans la bouche faisaient des marques nettes. L'extrémité des incisives était brisée, une de façon régulière, l'autre sur un côté seulement, où un éclat manquait. Les yeux étaient immensément blancs, inquiets, troués. » Fin de citation. Ce moment sert à carnavaliser un lieu commun de la littérature, car il s'agit moins d'introspection ici que de transpection. En effet, le narrateur voit à travers lui-même, sans apprendre quoi que ce soit d'utile, se trouvant encore plus loin de lui-même qu'avant. Cette séparation de lui-même devient la règle générale chez Toussaint. Dans « Faire l'amour », par exemple, le narrateur dit à deux reprises que son image dans la glace est méconnaissable. Et à un moment donné, il pense jeter son flocon d'acide chlorhydrique contre le miroir. La distance entre lui et lui-même n'est qu'un cas très prononcé de séparation, état qui se déclare fondamental dans les écrits de Jean-Philippe Toussaint, qu'il s'agisse d'une séparation du monde ou du moi. D'en faire l'amour, c'est cette idée qui met l'intrigue en marche lorsque le narrateur nous dit que lui et Marie se sont séparés pour toujours. Dans la salle de bain, c'est la séparation avec Edmondson, séparation littérale mais aussi affective, qui fait avancer le récit. Mais il me semble que les effets de distanciation sont encore plus amples. Car les choses sont typiquement à distance dans l'œuvre de Toussaint, hors de portée, de la portée du narrateur, je veux dire, mais aussi de notre portée lectorale. Il est souvent question de l'art dans la salle de bain, par exemple. Edmondson travaille dans une galerie d'art et le narrateur évoque, entre d'autres, Mondrian, Raphaël, Titien, Véronèse, Sebastiano del Piombo, Van Gogh, Hartung, Pollock et Jasper Johns. Mais lorsqu'un peintre intervient dans le côté événementiel du roman, il s'agit d'un peintre en bâtiment. Et encore, il est en panne de peinture. le narrateur de la télévision est censé écrire un vaste essai sur Titien et Charles Quint, mais c'est la télévision qui l'obsède. Or, cette dernière, selon lui, je cite, offre le spectacle non pas de la réalité, quoi qu'elle en ait toutes les apparences, mais de sa représentation. Fin de citation. En d'autres termes, la télévision nous éloigne de la réalité. Mais il me semble que c'est la représentation elle-même qui est en cause ici. Je cite, « Ce n'était donc pas par des mots que j'étais parvenu à lui communiquer ce sentiment de beauté de la vie et d'adéquation du monde qu'elle ressentait en ma présence. » Fin de citation. Dit le narrateur de Faire l'amour à propos de son rapport avec Marie. Comme si les mots étaient inutiles lorsqu'il s'agit de rapprocher les individus. Toute représentation, toute communication, toute correspondance se fait à distance ici. Et il en va de même pour la lecture. Le narrateur de la salle de bain lit Pascal en traduction anglaise. Le narrateur de la télévision lit Proust en traduction allemande. Le narrateur de Faire l'amour lit la Bible en anglais. Bien entendu, lorsque Toussaint fait appel à la lecture, il est inévitable que nous réfléchissions à notre propre situation de lecteur et peut-être aux distances qui structurent cette situation. Certains moments textuels suggèrent des perspectives assez décourageantes pour un lecteur ou une lectrice qui aimerait se rapprocher du monde fictionnel. Dans Faire l'amour, par exemple, le narrateur nous avoue que Marie avait pensé qu'il n'accepterait pas de l'accompagner au Japon. Je cite, « Pour de multiples raisons, mais pour une, surtout, dont je n'ai pas envie de parler. » Fin de citation. Cette dénarration, ce refus de dire, installe ou confirme une distance entre lui et nous, entre le narrateur et nous, entre nous et le monde, qui nous raconte aussi. Cela nous tient à distance, en effet, en jouant sur notre curiosité, sur notre volonté de savoir, sur notre amour propre lectoral, sur notre désir d'imaginer que nous avons un rôle à jouer. Un bon brechtien y verrait sans doute un exemple du Verfremdungseffekt, un geste calculé afin de favoriser notre compréhension critique de la chose représentée. Je me demande cependant s'il ne s'agit pas de quelque chose d'autre ici, car notre expérience lectorale est très largement conditionnée par le narrateur, plus amplement encore que dans la majorité des récits à la première personne, à cause de l'exiguïté de l'espace narratif chez Toussaint. Et si, de toute évidence, le narrateur en vient aux prises souvent avec les problèmes de la distanciation, il est normal que nous ressentions cette difficulté dans notre lecture, de façon diverse et multiple. Mais il me semble que le problème de la distance, tel que Toussaint le pose dans ses livres, est lui-même singulièrement mobile pour les narrateurs et pour nous autres lecteurs et lectrices également. En d'autres termes, cela se présente sous des aspects qui sont constamment en mouvement, qui nous obligent à considérer l'idée même de la distance de manière différente. À ce titre, et en guise de conclusion, j'aimerais citer un passage assez long de la salle de bain qui me paraît exemplaire en vertu de la façon dont il articule la règle du jeu qui m'intéresse et qui anime, me semble-t-il, non pas simplement la salle de bain, mais les autres livres de Toussaint aussi. Je cite. Il pleuvait, la rue était mouillée, les trottoirs étaient sombres, des voitures se garaient, d'autres, en stationnement, étaient couvertes de pluie. Les gens traversaient la rue rapidement, entraient et sortaient de la poste dont l'immeuble moderne me faisait face. Un peu de vapeur commençait à recouvrir ma vitre. Derrière la fine pellicule de buée, j'observais les passants qui déposaient du courrier. La pluie leur donnait des airs de conspirateurs. S'immobilisant devant la boîte aux lettres, ils sortaient une enveloppe de leur manteau et très vite, pour ne pas la mouiller, la jetaient dans une fente en redressant le col pour affronter la pluie. J'approchais mon visage de la fenêtre et, les yeux collés contre le verre, j'eus soudain l'impression que tous ces gens se trouvaient dans un aquarium. Peut-être avaient-ils peur. L'aquarium, lentement, se remplissait. Fin de citation. Simplement dit, le narrateur est à distance des gens qui l'observent. Lui à l'intérieur de son appartement, eux à l'extérieur, dans la rue pluvieuse. Mais dès qu'il imagine ces gens dans un aquarium, les relations d'intériorité et d'extériorité changent, se renversent en fait, car c'est maintenant lui à l'extérieur, eux à l'intérieur. La distance demeure, mais le rapport à la distance et la manière dont la distance structure l'expérience change. Et cela change en un clin d'œil, à l'instar d'une de ces images lenticulaires qui font la joie des enfants et de certains adultes. Ce qui vaut pour le narrateur vaut également pour le lecteur ou la lectrice, à mon avis. Nous aussi, nous sommes loin des choses ici, mais cette distance est constamment en mutation, nous obligeant à nous accrocher comme on peut à une narration labile, mercuriale, en un mot, vertigineuse. Je vous remercie.
Je voudrais ouvrir cette communication en repartant de son titre, à savoir BPOF25, qui se rattache à une énigmatique taxinomie et qui pourtant va nous conduire à une promenade littéraire, à une rêverie borgésienne, rimbaldienne, rousseauiste. Cette rêverie s'ouvre sur le ciel toussaintien, le ciel scintillant du site, et nous conduit jusqu'au Cap Corse. D'un clic, BPOF25 nous donne accès à l'île des anamorphoses, tout au moins à la version de Jean-Philippe Toussaint, puisque cette nouvelle publiée en 2014 s'inscrit dans le cadre du projet Borges. Alors pour ma part, je ne vais pas m'arrêter sur l'enjeu de ce projet collectif extrêmement riche, mais me focaliser sur le contenu même de cette nouvelle. En préambule, je rappellerai son argument. Il s'agit d'un narrateur qui, donc c'est un récit à la première personne, qui, en faisant des recherches, tombe par hasard sur le texte « Borges et les trois infinis », dans lequel l'auteur, un certain Alfred Bruyas, fait référence à une nouvelle apocryphe de l'écrivain argentin « L'île des anamorphoses ». Alors que le narrateur qui se nomme Jean-Philippe Toussaint, nous l'apprenons au cours de la nouvelle, alors que le narrateur est sur le point de terminer son roman « La vérité sur Marie », il s'aperçoit que le texte est introuvable. Il cherche à contacter son auteur, prend rendez-vous avec lui et n'hésite pas à se rendre à Sassuolo, en Corse, pour l'interroger sur le sujet. Au cœur de l'entretien, Bruyas révèle brusquement qu'en fait, la mention de la nouvelle n'a pas été faite par lui-même, mais par Jean-Philippe Toussaint. Péripétie. Le dialogue entre les deux personnages tourne court et l'échange dure à peine une heure. Mais en repartant, le narrateur nous livre trois certitudes. Donc cet entretien rapide et ces trois certitudes s'ouvrent, chacune d'elles s'ouvrant sur un infini de possibles et de conjectures autonomes, auxquelles il rajoute une ultime intuition, selon laquelle Alfred Bruyas serait en fait une projection de lui-même. Jouant en permanence du franchissement des frontières entre réalité et imaginaire, le récit réfléchit, dans tous les sens du terme, le processus de fictionnalisation. et met en perspective la représentation du narrateur-écrivain. La vertigineuse composition autour d'Alfred Bruyas inscrit le texte dans un cadre qui est celui de la tradition littéraire du double, mais dans un cadre également de la métalepse. Les deux paramètres fonctionnent. L'enjeu de cette communication sera donc d'éclairer la manière singulière dont Jean-Philippe Toussaint s'empare de cette tradition en déplaçant le questionnement de l'identité narrative du sujet écrivant vers un territoire concret. Le pronom « il » s'anamorphose. Au prisme de la fable, il devient « l'île ». À partir de là, les interrogations de la conscience du narrateur, le flux de la narration, se transforment en un processus naturel, un processus botanique qu'annonce le titre et que développe l'incipit de la nouvelle que nous allons relire ensemble. C'est la passion du vrai ou du détestable concret. Pardon. C'est la passion du vrai ou du détestable concret qui a dû inciter Alfred Bruyas, parfait homonyme d'Alfred Bruyas, avec qui pourtant aucun lien de parenté ne le lie, à m'avouer que l'île des anamorphoses devait son nom, non pas à quelques métaphores picturales qui auraient ouvert la voie à l'imagination, mais à une dégénérescence morbide des végétaux qui la peuplaient. Nous pénétrons immédiatement dans un territoire borgésien, un jardin au sentier qui bifurque, pour reprendre le titre de la première section de fiction. Nous sommes en effet sommés par l'auteur de Borges et les Trois Infinis, à savoir Alfred Bruyas, de ne pas emprunter la piste esthétique que désigne ici la métaphore picturale, justement attendue dans le champ littéraire, pour s'orienter vers une acception plus immédiatement botanique. Mais simultanément, le narrateur, lui, par le subjectivem détestable, nous invite à nous détourner de cette proposition, de ce parti pris pragmatique exprimé par Bruyas. La dénégation de Bruyas est littéralement un sens interdit et fonctionne au seuil de la nouvelle comme une prétérition. La voie ouverte à l'imagination, parce que proscrite, ne peut qu'aiguiser notre curiosité et nous inviter à poursuivre. D'autant plus que l'on se demande qui est cet Alfred Bruyas. Cet Alfred Bruyas qui impose son autorité, voire son auctorialité, au seuil de la nouvelle. Donc, qui est cet Alfred Bruyas ? Nous l'avons entendu, Alfred Bruyas est le parfait homonyme d'Alfred Bruyas. Nul ne pourrait le contester. C'est donc d'abord un nom, c'est donc d'abord un son. Aucun lien de parenté ne le lie à Alfred Bruyas. Soit. On peut donc, dans notre rêverie, on peut avancer l'hypothèse qu'il serait plutôt apparenté à Pierre Ménard, auteur du Quichotte. Dans le jardin borgésien, on croise en effet celui qui, avec le même, crée l'autre. Celui qui, tout en copiant à l'identique une partie de roman de Cervantes, invente un texte original. Le début de la nouvelle affiche donc une dimension tautologique qui est chère à Borges. Alfred Bruyas copie Alfred Bruyas. Le patronyme ne s'inscrit dans aucune lignée. Il n'a pas d'ascendance. De fait, on peut le rapprocher de ces végétaux dont il est fait mention, qui sont dégénérés, lui aussi est littéralement dégénéré. Il renvoie à un nom, uniquement un nom, dans une symétrie parfaite, il renvoie au langage borgésien, comme Toussaintien. Qui est Alfred Bruyas ? Pour plagier une formule de Toussaint que nous avons déjà entendue hier, on pourrait dire que Bruyas, enfin, son homonyme, est très connu, mais personne ne le sait. Nous le connaissons, ou plutôt, nous connaissons ses portraits et les tableaux de sa collection. En effet, on peut rêver qu'il s'agit de cet esthète et mécène montpelliérain qui a été le modèle des grands maîtres de son époque, et la postérité a fait de lui un sujet pictural. Il existe comme modèle. Le lien étroit l'unissant à Eugène Delacroix ne peut que nourrir notre rêverie en ce sens, puisqu'il y a une relation de proximité entre Jean-Philippe Toussaint et le peintre romantique, on l'a vu dans l'exposition Livre-Louvre de 2012. L'Alfred Bruyas, écrivain que rencontre le narrateur au Cap Corse, est donc un alter écho de ce modèle pictural. La référence à la peinture fait donc ici retour, alors même que Bruyas rejette la possibilité d'entendre l'anamorphose dans son acception plastique. À son corps défendant, Bruyas est d'ailleurs en lien direct avec Deleuze. Rappelons en effet qu'il publie Borges et les Trois Infinis aux éditions Fata Morgana, édition cise dans l'Hérault. Comme est-ce un hasard, certaines des publications de Pierre Ménard. En outre, ce nom de Fata Morgana est riche de sens, puisque le nom commun désigne des procédés optiques et désigne des mirages. Son livre est un mirage réel, comme le sont ces Fata Morgana qui trompent nos sens alors qu'elles résultent de phénomènes optiques particulièrement identifiés. Le jeu onomastique désigne un horizon de repères lointains, subliminaux pour employer un terme toussaintien. Cependant, la nouvelle comporte d'autres résonances qui sont, elles, plus immédiatement, plus directement audibles. Revenons donc à cette question, qui est Alfred Bruyas, en nous intéressant plus directement aux indices du texte. Il est cet écrivain dont le livre est publié en 1979. Or, c'est l'année que Toussaint présente dans son texte « Le jour où j'ai commencé à écrire » dans « L'urgence et la patience » comme marquant ses débuts d'écrivain. Alors que le narrateur recherche la paternité de l'île des anamorphoses, et spécifiquement le terme de paternité est employé dans la nouvelle, il se trouve ramené à ses propres commencements, à ses propres origines, ce que signifie, comme en passant, la comparaison de l'attitude pensive de Bruyas à celle du père du narrateur. En allant vers d'autres territoires, il se trouve, en définitive, au cœur de son propre imaginaire. Alfred Bruyas conduit le jeu vers l'île, vers ce « il ». En ce sens, on peut l'assimiler à un passeur qui embarque le sujet vers la fiction. À la question « qui est Alfred Bruyas ?», on peut désormais répondre qu'il est un autre jeu. L'autre écrivain ou l'autre de l'écrivain. Bruyas formule mot pour mot un passage de La vérité sur Marie et juste après cite Rimbaud. Me regardant droit dans les yeux, il me cita alors, en détachant lentement chaque mot, la fameuse phrase de Rimbaud « Je est un autre ». Et il poursuivit la citation de mémoire avec une lueur de complicité narquoise. « Cela m'est évident, j'assiste à l'éclosion de ma pensée, je la regarde, je l'écoute. » La formule rimbaldienne, dans la bouche du vieil homme, prend un sens circonstanciel. Elle traduit de manière exacte ce qu'est en train d'éprouver le narrateur de la nouvelle qui assiste à l'éclosion de sa pensée, la regarde, l'écoute. Les mots du roman, comme ceux, donc La vérité sur Marie, comme ceux du poète Arthur Rimbaud, successivement prononcés par Bruyas, pourraient effectivement sortir de la propre bouche du narrateur Jean-Philippe Toussaint. Bruyas est assimilable non au double du narrateur, mais à son trouble, dans la mesure où il est l'élément perturbateur qui invite le jeu vers un déplacement. Déplacement initié et représenté par le voyage à Sassuolo. mais déplacement également signifié par le principe de l'anamorphose, qui exige le regard de biais, le soupçon. Ce duo Bruyas-Toussaint, ce duo d'ambassadeurs de l'île des anamorphoses, nous fait entendre un singulier memento, où il n'est pas simplement question de vie et de mort, mais de vie. Nous sommes tous potentiellement des personnages de fiction. Les altérations du moi sont la possibilité même de la littérature. Ou pour reprendre les propos de Bruyas, tous les ils sont en réalité des jeux, de même que tous les jeux sont des ils en puissance. Le terme de substitut, qui est explicitement préféré par le narrateur à celui de double, attire l'attention sur le transfert de l'un à l'autre. Or, ce transfert n'est pas simplement spatial, il est également temporel. Bruyas est avant tout la figure de celui que sera le narrateur. Il est sa projection en 2041, par cet affolant effet de toupie temporelle ou d'anagramme de nombre. L'anamorphose s'illustre ici comme une altération du temps. Bruyas est le portrait mouvant de l'auteur qui oscille entre dégénérescence et régénérescence, à la fois source et fin. Son existence fait du texte un anneau de Möbius. Pour reprendre l'isotopie botanique, Alfred Bruyas est un substitut, mais c'est également le substrat du texte, ce qui lui donne corps, la matière qui le fonde. Tout tourne, tout virevolte autour de Bruyas, autour de ce qu'il dit, de ce qu'il tait, de ce qu'il sous-entend. La nouvelle s'ouvre symptomatiquement sur un aveu de Bruyas. Sa dernière prise de parole prend la forme d'une confidence. Et le narrateur lui fait une promesse. De telle manière que se trame dans tous les sens du texte, tous les sens du verbe, dans tous les sens du terme, un réseau de relations fondées sur la confiance et sur la défiance, sur l'abandon, sur le soupçon. Et le jeu est à la fois le sujet et l'objet de cette duperie. L'ambiguïté est en effet de mise, alors que le texte affiche des postures de sincérité. Revenons sur cette expression qu'on a pu rencontrer tout à l'heure, cette expression figée, droit dans les yeux. Cette rectitude de regard met en scène une révélation, une vérité, mais s'accompagne à une référence implicite à la tromperie, portée par l'adjectif narquois, puisque le terme signifie aussi bien la raillerie que la tromperie. La ligne droite du regard bifurque. Vers la formule rimbaldienne, le regard par ce biais signifie autrement, ou autre chose, et précisément fonctionne comme une anamorphose. Bruyas donne son identité, ou plutôt son altérité fondatrice. Il l'abandonne, il s'abandonne à la confidence, à son interlocuteur, au lecteur, et se révèle comme un substrat paradoxal du texte, dans cette alliance de forces mortifères et vitales. Remarquons que le substantif substrat est employé dans un paragraphe outrageusement didactique et délicieusement suspect, qui constitue le deuxième item des trois certitudes acquises par le narrateur. L'anamorphose du titre est un leurre. On voit là la dimension circulaire de la nouvelle, puisqu'on retrouve les éléments de l'incipit. L'auteur de la nouvelle fait en réalité allusion à une anamorphose botanique. Là aussi, le propos nous était déjà signifié à l'orée du texte. La circularité s'impose. Il est notoirement établi que l'eau de mer est un facteur défavorable aux végétaux. Les tempêtes et les fortes vagues, en propulsant l'eau salée à une grande hauteur, arrachent les jeunes plantes et érodent le substrat, de sorte que les portions côtières des rochers se dénudent, se dégradent et finissent par se désertifier. D'après Alfred Bruyas, et je ne saurais évidemment le contredire sur ce point, toute explication picturale qui convoquerait, par exemple, les ambassadeurs d'Holbein ou l'analyse de la multiplication des points de vue, serait vouée à l'échec et ne mènerait qu'à des voies sans issue. Une tension se fait jour entre la fermeté de l'affirmation, il est notoirement établi, et la destruction programmée du substrat qui nous est signifié, entre la solidité du socle et l'érosion entre la parole et son effacement. De surcroît, pensons aux différentes acceptions de ce mot sur ce substrat. Ce mot lie l'être et la matière. Bien sûr, le contexte géologique s'impose ici, mais rien n'empêche d'entendre le terme comme désignant la réalité profonde d'un être. Alors que s'érige une solide explication rationnelle, dispensée par les sciences du vivant, le substrat de l'île et du personnage d'Alfred Bruyas, comme le substrat du texte lui-même, se trouve attaqué par ce mouvement de justification qui tend vers le non-sens par une surenchère de sens, cette certitude constituant une bifurcation incongrue. Si Jean-Jacques a vanté les vertus de la botanique dans ses rêveries, Jean-Philippe, lui, expérimente une phytologie dans le jardin borgésien où se démultiplient les croisements. En effet, cette certitude même n'est pas univoque. Elle fait entendre une autre voix. Elle fait entendre l'ironie et revient ici la puissance de la métaphore picturale et de l'imagination. Par le procédé déjà mis en évidence au seuil de la nouvelle et de cette communication, un sens qui s'affiche comme interdit permet la division du texte. Le texte se dédie et se multiplie. Ici, la référence aux ambassadeurs d'Holbein participe d'une antiphrase. Alors que le propos modalise toute explication qui convoquerait cette référence au tableau devenu le parangon de l'anamorphose, il lui donne simultanément une existence. Il rend effectif ce qu'il désigne comme hypothétique, à savoir la convocation de cette toile où flotte le symbole de notre finitude. Et je dirais donc pour conclure que la multiplication des points de vue se transfère de l'espace du tableau à celui du texte. En lieu et place d'une dégénérescence s'opère une régénérescence qui s'ouvre sur des possibles herméneutiques. Peut-être faut-il comprendre littéralement cette idée énoncée à la fin de ce paragraphe explicatif. Ces anamorphoses picturales nous engagent dans des voies sans issue, c'est-à-dire dans des cheminements dont on ne peut sortir, car les parcours que nous offrent les récits ne sont nullement linéaires et participent d'un mouvement sans fin. Je vous remercie.
Je vais donc vous parler, comme le titre de ma communication l'indique peut-être, de la télévision et surtout de Berlin dans la télévision. Je reprendrai mes propos liminaires dans le programme parce que finalement j'ai écrit ce que je voulais dire, donc je vais le dire à l'oral. Tout auteur donc qui écrit sur Berlin vient s'inscrire consciemment ou pas dans, je cite Erhard Schütz, un texte de la ville qui lui préexiste, dans un mythe déjà visité par des écrivains, des cinéastes, des artistes qui ont arpenté la ville avant lui. Le narrateur de la télévision confie donc incidemment qu'il a, je le cite, une bonne connaissance de l'allemand, de la langue et de la culture allemande. Et même si l'auteur s'échine à écorcher sa crédibilité, il le laisse par exemple traduire le nom des voisins Uwe et Inge l'envoie aussi dans une papeterie acheter un rouleau d'essuie-mains à la place de mouchoirs, eh bien il ne faut en rien se fier aux apparences. Me semble-t-il, le, je cite, « débat sur la ville » n'est pas seulement présent comme une rumeur au second plan. Dans un roman où il est en autre question de la réalité perçue par le truchement de l'artefact télévisuel, on l'a entendu, il n'est pas innocent de situer l'action dans la métropole berlinoise dans laquelle a écrit et vécu l'auteur donc de l'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique. Dans le contexte de la fin des années 90, où la capitale réunifiée, Berlin, donc devenue centre de l'Europe, fascine les écrivains francophones et préoccupe largement le champ littéraire allemand en quête constante du fameux, je cite, « roman sur Berlin », un roman qui viendrait donc renouer avec la tradition littéraire interrompue à la fin des années 30. La représentation faite de Berlin dans ce roman est d'autant plus intéressante qu'elle déjoue les horizons d'attente liés entre autres à la notion de centre ou encore à la thématisation du passé berlinois ou, appelons-les, les grands bouleversements historiques. D'abord parce que le lecteur va donc patienter le bon premier tiers du roman avant de réellement voir Berlin et qu'il est d'abord frappé par l'apparente banalité des réalités berlinoises perçues par le narrateur. Ensuite, parce que la représentation de Berlin se construit grâce à la référence, à la puissance, pardon, de référent onomastique, et l'absence de centre, qui est véritablement intrinsèque à Berlin, n'empêchant pas la ville d'être au cœur du roman. Enfin, parce que voir Berlin avec Jean-Philippe Toussaint entraîne le lecteur dans un vaste jeu de pistes référentielles qui est fécond en réflexion sur la perception du réel médiatisé. S'il est donc fort tentant de suivre la piste de l'analyse de la représentation de Berlin en tant que réalité extra-littéraire, on voit vite que le parcours du narrateur dans l'espace urbain est une plongée dans un vaste réseau de significations où s'entremêlent allusions intertextuelles, clins d'œil cinématographiques et références à des images artistiques qui surgissent au cœur de Berlin, au cœur du texte. L'ancrage de la fiction dans la ville de Berlin, que Régine Robin qualifie, je la cite, de propice à la présence de fantômes, de strates mémorielles multiples, une ville à l'imaginaire de ruines, apparaît, il me semble, comme un choix littéraire constitutif permettant d'interroger les modalités de la représentation du réel et de mettre en lumière, tout va bien, à travers l'évocation d'un espace spectral, le rapport entre les arts et le politique. Ah, c'est encore ma vie privée qui va défiler. Bon, alors du coup, il y a des citations que j'ai déjà dites. Hein. C'est donc l'absence de Berlin qui frappe en premier lieu un lecteur qui serait soucieux d'en trouver une représentation comme moi. Donc, l'espace urbain est déroutant. Le lecteur va devoir patienter avant de voir le narrateur faire ses premiers pas dans la capitale réunifiée. Pendant le premier tiers du roman, Berlin n'est d'abord que l'évocation linguistique de sa propre existence dans la réalité du personnage, comme si son évocation dans le récit n'avait d'autre but que d'acter la certitude de son existence dans la réalité. Donc on sait que le narrateur y passe l'été dans un appartement d'un quartier résidentiel, mais c'est le quotidien d'un personnage qui pourrait se dérouler dans n'importe quel autre lieu qui nous est donc donné à lire. À l'instar du narrateur, personnage qui s'étonne de se trouver en ce moment à Berlin, à plus de 10 heures du soir, assis en pyjama sur le lit de ses voisins du dessus, c'est bien également le décalage, entre le potentiel symbolique de Berlin et la banalité de la situation qui frappe d'abord le lecteur. Alors, tout est ainsi posé et mis en scène que l'on pourrait avoir l'impression que Berlin est là par hasard. Le projet de recherche qui amène le personnage à Berlin n'a, je cite, rien de spécifiquement allemand. La première évocation d'une sortie à l'extérieur de l'appartement de Berlin ne suscite nulle curiosité. Le hall de l'aéroport de Tempelhof est évoqué sans que le narrateur n'y porte grand intérêt. Et d'ailleurs, on regagne bien vite l'intérieur. Donc l'effet de réel escompté tarde à advenir, puisque la réalité berlinoise se réduit dans un premier temps à cet intérieur d'appartement, à partir duquel tout est vu et perçu. Cette perception de Berlin, tronquée, réduite, subjective, culmine lorsque le narrateur observe, je cite, que toutes les lumières étaient éteintes maintenant aux fenêtres de l'immeuble d'en face. Tout le monde dormait dans Berlin. L'effet métonymique est poussé à son paroxysme et est symptomatique de la vision pour le moins sélective de l'espace urbain. Lorsqu'enfin le personnage fait ses premiers pas à l'extérieur de son appartement, on comprend que le portrait éventuel de Berlin qui pourrait advenir sera déformé. L'écriture de la ville est avant tout un jeu, ce qu'indique la première référence toponymique, la Arnheimplatz. Arrivé sur la Arnheimplatz, non loin de chez moi, je longeais une petite haie de buis derrière laquelle se trouvait un parking désert. Alors la lecture de ce référent onomastique provoque un trébuchement et invite à une relecture, puisqu'il y a bien une Arnheimplatz à Berlin, pardon, mais les deux lettres qui viennent s'intercaler, pareil à un lapsus, subvertissent le caractère potentiellement authentifiant du chronotope. Ce nom propre rappelle ainsi une Stolperstein, une pierre d'achoppement, comme il y en a tant à Berlin, et place le roman La Télévision en relation avec les écrits du théoricien de l'art, critique de cinéma et psychologue, Rudolf Arnheim, né à deux pas de l'Alexanderplatz en 1904. Arnheim, qui écrit pour la Weltbühne aux côtés de Karl von Ossietzky jusqu'à son exil qui le mènera en Italie en 1933, puis aux États-Unis, est donc connu pour ses critiques sur le cinéma de la République de Weimar, pour sa théorie du cinéma comme art, film als Kunst, mais aussi pour ses réflexions sur la perception visuelle, exposées en particulier dans l'ouvrage qu'il a rédigé en anglais, Visual Thinking. Il est également pour son essai sur la radio, qu'il clôt par un texte sur la télévision, qui à cette époque en est à ses balbutiements, et dont le titre, Blick in die Ferne, dont la traduction ne pourrait qu'épuiser la polysémie de l'expression, pose les jalons d'une des toutes premières réflexions sur le nouveau média. Ainsi est-il difficile de ne pas voir dans cette toponymie non authentifiante une relation métatextuelle. Il nous semble ainsi que la représentation littéraire de la ville dans la télévision est symptomatique d'une réflexion sur le rapport au réel transformé par les médias, évidemment. Symptomatique également du plaisir pris par l'auteur à semer des pistes interprétatives qu'il convient de ramasser au cours des déambulations de son narrateur dans Berlin, situation qui place le lecteur dans la position d'autres flâneurs berlinois bien connus, traçant un arc qui se tend des promenades dans Berlin de Franz Hessel à celle de Walter Benjamin. S'il s'agit donc d'un Berlin subjectif, vu et pensé à travers le regard malicieux de Jean-Philippe Toussaint, qui emplit l'espace urbain de sa bibliothèque, l'analyse du chronotope n'en reste pas moins féconde, car le jeu de pistes précédemment évoqué esquisse une topographie pour le moins significative. Donc, ce qui se dessine dans ce parcours urbain, c'est un mouvement, un regard porté au loin, tel le regard prophétique donc, de Rudolf Arnheim dans son essai Blick in die Ferne. Et il suffit de suivre pour cela du regard la direction indiquée par le bras du narrateur, tout juste sorti de son appartement, qui indique leur chemin à des touristes égarés. Le bras tendu en direction des confins de la Funkturm. Donc, le premier édifice berlinois évoqué est ainsi la tour radio de Berlin, ce qui ne manque pas de piquant dans un roman portant le titre de l'autre média de masse du XXe siècle. Comme si l'espace du roman était donc dédié aux télétechnologies, pour reprendre un terme cher à Derrida. La Funkturm de Berlin-Ouest apparaissant comme le pendant, ou peut-être plutôt comme l'antithèse de la tour télé, symbole historique de Berlin-Est, avec laquelle une collision est évitée de peu à la fin du roman. La force allusive à l'œuvre autour du terme de Funkturm ramène le lecteur aux années 30 et laisse affleurer les théories de Brecht et de Arnheim sur la radio. Donc la télévision et la radio deviennent des pôles opposés, jalonnant le parcours du personnage dans la topographie berlinoise. Cet édifice esquisse également la possibilité d'un regard diachronique porté sur les médias du XXe siècle. De la radio à la télévision, donc du début à la fin du roman, Blick in die Ferne, donc. Cette topographie est également marquée par l'évocation du réseau autoroutier, par l'entrelac des voies de communication de transport particulièrement denses, si bien que le narrateur, lorsqu'il fait ses premiers pas à l'extérieur de son appartement, donc, manque se faire écraser, trouvant refuge, je le cite, sur un terre-plein de béton qui séparait les deux voies rapides de l'autoroute urbaine qui sillonne le nord de Berlin dans un enchevêtrement autoroutier complexe, car c'est là que se rejoignent le périphérique intérieur, qui permet tout aussi bien de gagner l'aéroport de Tegel vers le nord que les quartiers de Steglitz vers le sud jusqu'à Zehlendorf et les grandes autoroutes qui conduisent vers l'ouest du pays, vers Francfort ou Cologne, et vers l'est, dans l'autre sens, en direction de Tegel, vers Dresde ou même vers la Pologne. La télévision apparaît comme un roman sur la cognition qui interroge notre capacité à voir. Le narrateur observe Berlin par le biais d'images. Les tableaux évoqués dans le roman sont nombreux, on en a parlé. Tableaux et écrans viennent s'intercaler entre le narrateur et la réalité pour biaiser sa perception. Ainsi, de la scène de l'appartement, où il observe les différentes fenêtres dans lesquelles on voit des écrans, vastes mises en abîme, ou encore de la scène dans les sous-sols du musée, où c'est à travers des écrans qu'il perçoit l'œuvre d'art ayant suscité l'idée initiale de l'ouvrage qu'il tente de rédiger à Berlin. Ce motif se voit poussé à l'extrême lorsqu'à la fin du roman, il est dans son appartement et qu'il voit son voisin du haut, Uwe Dreschin, à la télévision. La scène devient véritablement intéressante lorsque le réel vivant vient se manifester sous la forme de sons provenant non de la télévision, mais du dit appartement du dessus où vit réellement le voisin, comme si le doublage sonore émanant du réel venait détrôner, pour finir, celui qui est retransmis, désignant la réalité comme artefact. L'humour est poussé à l'extrême, puisqu'on finit par voir la télévision d'en haut, de l'avion, et manquer la percuter, variant ici la scène du début du roman où le narrateur prend pour cible l'objet télévision et l'asperge avec un spray de détergent. De la même manière que le parcours urbain du narrateur réactive chez le lecteur une pensée sur les médias du XXe siècle, dont j'ai parlé de Arnheim ou encore de Brecht, c'est Berlin comme décor de cinéma qui est revisité dans la télévision. Les allusions au cinéma sont nombreuses. Le narrateur personnage précise qu'il est assis dans son appartement, dans son fauteuil de metteur en scène. Et parmi le jeu de pistes référentielles, les occurrences du groupe nominal Le Ciel de Berlin fonctionnent comme un embrayeur intermédiaire. Et il renvoie évidemment au film de Wim Wenders, Der Himmel über Berlin, tourné en 86-87. Peter Zander, dans son article Das Drehen auf einer Baustelle, Berlin, Filmkulisse, rappelle qu'à l'époque du tournage, le ciel au-dessus de Berlin est bien le ciel divisé du roman éponyme de Christa Wolf, Der geteilte Himmel, de cet auteur. Et on peut être tenté, bien sûr, de voir dans la scène de l'avion une citation cinématographique. Lorsque le narrateur et John Dory survolent la Siegessäule, isolée au cœur de son étoile d'avenue presque déserte, une autre image vient en surimpression du texte littéraire. La perspective s'inverse et laisse surgir une image du film In Weiter Ferne Sona, donc Si loin, si proche, où l'ange Cassiel se tient debout sur le visage de la statue et que traverse de gauche à droite, justement, un petit avion de tourisme. Donc, clin d'œil cinématographique ou interprétation abusive. Le ciel de Berlin se prête, on le voit, à de nombreuses projections artistiques, tour à tour toile ou texte. De même, la scène dans laquelle le narrateur et John Dory se rapprochent de Berlin en partant du nord-est et en allant vers le cœur de la ville, vers Berlin Mitte, ressemble en tout point à une scène de cinéma et rappelle l'arrivée en avion dans Les ailes du désir. Ce qui frappe le lecteur lorsqu'il regarde Berlin du ciel, c'est d'abord son immensité et l'impossibilité de l'embrasser du regard en raison de son étendue. C'est ensuite l'omniprésence des travaux, véritable marqueur de la berlinité des années 90. C'est cette très jolie citation. Si j'ai le temps, je la lis. Je n'ai pas le temps, je ne la lis pas. En tout cas, je dirais que si on la lit, on se rend compte qu'elle ressemble pas mal à Dublin. Donc, vous connaissez bien sûr Berlin Alexanderplatz. Dans ce passage, le roman emprunte au cinéma ses techniques de représentation du réel. Donc, du haut de l'avion, on a l'impression d'avoir affaire à un long travelling, puisque le regard embrasse Berlin d'en haut, telle la caméra qui se déplacerait et qui suivrait son sujet dans un long mouvement. Attention, je change de citation. Je continuais de laisser courir mon regard en bas sur les toits. D'autres travelling dans le roman, lorsqu'ils circulent en bus à deux étages ou encore en taxi, indiquent que la ville est perçue en mouvement comme une image qui défile. Berlin comme ville du cinéma est par ailleurs discrètement évoqué lorsque le narrateur décrit le café Einstein, qui, dit-on, était le café préféré de Wim Wenders et qui, je cite le texte, avait été au début du siècle la résidence privée d'une très grande actrice du cinéma muet dont je tairai le nom en hommage à son art. Donc la référence au tout premier écran fait ici une brève incursion avec l'allusion à probablement l'actrice Henny Potten, première star du cinéma muet allemand. Mais il y a aussi l'image, je cite, de la lancinante prise de vue subjective d'une locomotive d'une ligne de S-Bahn lancée à toute allure sur ses rails dans la périphérie de Berlin, qui rappelle une image du film Berlin, Sinfonie einer Großstadt. On le voit donc, l'absence de référents intertextuels explicites n'empêche en rien le lecteur de naviguer dans la bibliothèque berlinoise de Jean-Philippe Toussaint. Si Jean-Philippe Toussaint écrit dans une interview qu'il a pris soin de ne pas utiliser une seule fois le mot mur dans le livre, ni chute, ni Wende, l'histoire est néanmoins présente en creux et peut-être reliée donc à l'histoire des médias, dont la référence à Rudolf Arnheim au début du roman présente comme un arrière-plan constitutif. Donc rappelons que le texte que le narrateur essaie d'écrire à Berlin, l'étude sur Titien Vecellio, concerne plus particulièrement, je cite, « les relations entre les arts et le pouvoir politique ». Alors il s'agit d'abord d'une représentation télévisuelle dans le cadre de documentaires, lorsque le narrateur qui vient de décider d'arrêter la télévision, de regarder pardon, la télévision, fait une première entorse à la règle en la regardant dans le lit de ses voisins pendant la séance d'arrosage des plantes. Et il commente le défilé des images disparates. Une partie de cette citation a été montrée ce matin, c'était le documentaire, c'est la Deuxième Guerre mondiale, etc. Plus loin, le narrateur s'amuse, enfin quand même je la lis parce que je ne sais pas si vous allez la lire, c'était des cadavres étendus dans les rues. Je finis par là. Plus loin, le narrateur s'amuse dans une des parenthèses qui illustre le surgissement de la pensée dans l'écriture de Jean-Philippe Toussaint, de ces plantes qui parlent allemand. C'est toujours surprenant, moi, je trouve, des plantes qui parlent allemand. De même, plus loin encore, lorsque le gardien du musée de Dahlem lui demande de se reculer, c'est à nouveau dans une parenthèse que sera faite une remarque concernant la langue allemande. Essayez de ne pas vociférer, n'oubliez pas que vous parlez allemand tout de même. Toutes drôles que soient ces remarques associant violence et langue allemande, elles n'en tissent pas moins une image de la perception de l'Allemagne qu'on est tenté de rapprocher d'autres remarques faites entre parenthèses. Lors de son excursion dans la banlieue de Berlin, le narrateur en vient à se demander si le terrain d'aviation auquel il se rend est encore en Allemagne. Parenthèse, mais pour être en Allemagne, il était en Allemagne. S'ensuit l'évocation, évidemment, d'un ancien aéroport militaire nazi. Les remarques sur l'histoire du XXe siècle sont ainsi faites incidemment. Lorsqu'il est à la piscine, le narrateur remarque qu'il se sent en sécurité dans ce petit îlot de stabilité, immuable et rassurant, au milieu de cette ville qui avait connu tant de bouleversements depuis, disons, les 80 dernières années. Si l'histoire de Berlin semble évoquer avec une certaine désinvolture et que le passé n'est pas le sujet central de ce roman sur Berlin, on voit néanmoins que la construction du texte œuvre à faire converger l'évocation d'un espace urbain berlinois ultérieur à l'effondrement des deux idéologies qui ont structuré l'espace pendant 40 ans et les effets de la télévision, ou plus précisément de la reproductibilité du réel, qui apparaît comme le véritable moteur du fantomatique. J'illustrerai cette remarque, si j'ai le temps, en ciblant trois passages clés en cinq minutes. L'excursion à l'est, celui de l'errance dans le sous-sol du musée de Dahlem et celui de l'inversion de la représentation du tableau de Cranach dans la dernière piscine visitée. Lorsque le narrateur se rend à M en prenant le S-Bahn à Alexanderplatz, il évoque un paysage de ruines et de désolation qui fait surgir dans le roman l'univers post-communiste. Lorsqu'ils descendent à la station de M, les concentrations d'immeubles uniformément gris font émerger l'univers de la post-RDA dans ce parcours urbain. Il n'est pas inintéressant que cette plongée vers l'Est s'accompagne de cette seule initiale, car elle rappelle ici au lecteur les paysages explorés par l'auteur est-allemand Wolfgang Hilbig, influencé, on le sait, par Kafka. Cette immense zone urbaine absolument déserte rappelle donc la banlieue de Marzahn, au nord-est de Berlin, l'avenue à des allures indiscutablement moscovites. La perception du narrateur est associée à un imaginaire de l'Ouest, les parenthèses jouant à nouveau de malice pour accentuer le dépaysement suscité par cette plongée dans le Grand Est. Dans un quart d'heure, on serait à Rostock, dans 20 minutes à Vladivostok. L'allée en cul-de-sac menant ensuite dans le vide sidéral de la Gagarine Allée. Donc l'espace est un univers marqué par la spectralité où les traces du passé gravées dans la toponymie sont omniprésentes. Ainsi, lorsque les deux hommes déambulent parmi ces blocs de béton identiques que différenciaient ça et là quelques lettres grisâtres passées qui avaient été peintes au pochoir à côté des entrées, un E fantomatique, les dernières traces erratiques d'un F à demi effacé. Hop, et à Dahlem dans le musée. Car ces déambulations dans Berlin finissent par mener le narrateur au cœur de sa propre réflexion. Si l'idée de son ouvrage lui est venue à Berlin, quelques années plus tôt, c'est bien dans le lieu où a surgi la pensée initiale qu'il retourne à la toute fin du roman. Après avoir survolé Berlin et observé les stigmates du XXe siècle dans son excursion dans la banlieue nord-est de Berlin, le narrateur progresse dans les salles du musée de Dahlem en remontant les siècles à contre-courant vers la Renaissance. Et seul dans la salle des Dürer, dans ce petit cabinet privé, tout au fond du musée, regardant les tableaux. C'est là que ses pensées commencent à s'assembler pour parvenir à une cohérence. S'ensuit une scène au cours de laquelle le narrateur se perd dans un sous-sol que tout contribue à laisser associer à des sortes de catacombes. Empruntant un couloir assez sombre, il se trouve dans les coulisses du musée. Et à l'instar du protagoniste de Kafka, errant dans les couloirs labyrinthiques du paquebot à son arrivée dans le port de New York, il débouche sur une chaufferie. La description détaillée et soignée de ce lieu contraste avec l'absence de description accordée au lieu extérieur pourtant emblématique de Berlin. Donc le lieu est inquiétant, le couloir étroit et bétonné que n'éclairaient que des néons blafards abrite des cabines blindées inquiétantes à haute tension vraisemblablement. Sur les portes desquelles étaient fixés des pictogrammes expressionnistes explicites, éclairs noirs stylisés et hommes foudroyés, tordus sur place, immobilisés dans leur chute asymétrique. Et les visiteurs du musée, touristes ou berlinois, sont également perçus ou associés à des spectres. Je ne lis pas la citation qui a déjà été pertinemment évoquée ce matin. L'écran, une nouvelle fois, apparaît comme un biais pour la perception qui transforme le vivant. À travers le filtre de ces écrans qui, cette fois, retransmettent l'image perçue dans un infime décalage temporel, il distingue donc le tableau qui avait été à l'origine de son étude, le portrait de l'empereur Charles Quint par Christophe Hamberger. Ce léger délai entre les mouvements des corps et leur diffusion biaise toute possibilité de perception directe et immédiate, illustrant ce que Derrida nomme la différence. Dès lors que le vivant est retransmis, il est déjà un peu mort. Et à propos de mort, la scène de la piscine, donc, puisque ce motif est repris et varié, quelques pages plus loin, lorsque le narrateur, de retour dans sa bibliothèque aquatique, observe le va-et-vient de femmes entrant et sortant du sauna et est saisi d'une vision qui vient se superposer au réel. Je peux encore ? Deux minutes. Regardant ces femmes, il songe qu'il assiste à une représentation vivante du tableau de Cranach, La Fontaine de Jouvence, comme si l'instant fixé par l'œuvre d'art venait se déposer en surimpression sur la réalité pour s'animer sous la puissance de sa pensée visuelle. Si le tableau représente de vieilles femmes qui sont amenées et qui ressortent rajeunies sous l'effet de cette eau miraculeuse, ici, à la piscine, la représentation est inversée. C'est dans ces cabines lugubres dans lesquelles elles vont s'irradier le corps qu'elles se fabriquent, au péril de leur jeunesse et de leur vie, je cite leur si beau teintelé. Expression ironique s'il en est, qui rappelle bien un masque mortuaire. En deux pages d'un texte d'une construction minutieuse, on suit donc un mouvement qui va donc de l'essor de la Renaissance à la fin du siècle de destruction qu'a été le XXe siècle. On passe de l'espoir et de la foi en une jeunesse éternelle aux fantômes qui hantent le tournant du siècle. Toute expérience, évidemment, ramène le narrateur à l'art, à une représentation artistique. Mais c'est l'œil qui est créateur. L'œuvre d'art se constitue dans le regard de l'observateur. Je conclus. Que finalement, tenter d'écrire un texte à Berlin en ayant renoncé à regarder la télévision et en passant son temps à laisser surgir des œuvres d'art dans son parcours urbain, aquatique ou aérien, est une occasion de dialoguer de manière productive, pour reprendre la formule de Thomas Mann, avec la théorie des médias élaborée par Rudolf Arnheim, qui, dès 1935, écrit que la télévision, je cite, « donnera l'illusion dangereuse qui consiste à croire que voir, c'est connaître ». La télévision représente une nouvelle victoire incroyable de nos sens sur l'espace et le temps. Elle enrichit notre univers sensoriel de façon extraordinaire. Elle est bien entendu aussi un nouvel instrument de ce culte de la contemplation directe qui naît de la joyeuse fierté que l'on a tirée de l'invention de la photographie, du gramophone, du cinéma, de la radio, et si caractéristique de l'attitude mentale du temps présent. Car il est bien vrai que nous ne pouvons déjà plus mesurer à quel point l'image du monde de l'homme moderne est plus concrète, plus englobante, plus immédiate et peut-être même plus juste que celle de ses ancêtres. N'oublions pas cependant que cette demande d'expérience directe correspond à une mise au ban de la parole et de l'écrit, et donc de la pensée. Plus les moyens au service de notre expérience se perfectionnent, plus se renforce cette dangereuse illusion selon laquelle voir, c'est connaître. Pour voir Berlin, et y écrire en tout cas, il faut d'abord fermer les yeux, et ce parcours urbain qui jalonne la gestation de l'œuvre que le narrateur tente d'écrire passe par l'univers hétérotopique des parcs berlinois, où nudité et sensualité accompagnent un travail de création littéraire souterrain et mènent bien à ce moment, dans les entrailles du musée qui a vu naître l'idée du texte à venir, où le narrateur ferme les yeux pour enfin voir. Merci.
Je suis Christian von Schilschke de l'Université de Münster en Allemagne. En vue du sujet de ma contribution, il était une fois la télévision de Jean-Philippe Toussaint au miroir de la lenteur de Milan Kundera. Je suis tenté de citer le début de football où l'année 1998 est désignée comme une date très lointaine, enfoncée dans le passé, déjà lourdement enfouie dans le XXe siècle, qui paraîtra d'un autre temps aux générations futures. C'est justement sur cette époque révolue des années 90 que je me propose de revenir, une époque où il n'était pas encore question d'Internet, Facebook, YouTube et des nouvelles séries télévisées. Une époque qui constitue pourtant une phase charnière dans les relations de la littérature française avec les médias audiovisuels et en particulier la télévision, en retraçant 20 ans plus tard le tournant esthétique qui marquait à cet égard la parution du cinquième roman de Jean-Philippe Toussaint, La Télévision, en 1997. En le comparant avec La Lenteur, septième roman de Milan Kundera, publié en 1995, on peut révéler de manière exemplaire comment ces deux écrivains, qui en plus appartiennent à des générations médiatiques différentes, s'engagent respectivement dans une réflexion sur la télévision afin de préciser leur propre vision sur la littérature et ses prises de position esthétiques nettement opposées. Comme on verra, dans leur rapport avec la télévision, ne se manifeste pas seulement leur appartenance au paradigme de la modernité, dans le cas de Kundera, et de la postmodernité, dans le cas de Toussaint, mais ce rapport lui-même peut aussi servir de critère pertinent pour les classer dans un de ces deux paradigmes. On ne saurait donc imaginer deux textes qui seraient plus représentatifs par rapport à la distinction entre un point de vue littéraire moderne et postmoderne sur la télévision que précisément La Lenteur et la télévision. Je commencerai avec une remarque sommaire par rapport au discours, au développement du discours intellectuel sur la télévision en France. Après, je présenterai brièvement la critique de la télévision de Kundera dans La Lenteur avant de montrer comment, chez Toussaint, le modèle littéraire même de la critique et réflexion médiatique est tourné en dérision. Comme on peut le supposer, dans le champ intellectuel des années 70 et 80, en France comme ailleurs, prédominent de profondes réserves vis-à-vis de la télévision. Pour s'en faire une idée, il suffit de citer les commentaires de Roland Barthes et Gilles Deleuze qui, quand il s'agit de la télévision, adopte des attitudes assez traditionnelles qui correspondent peu à l'esprit avant-gardiste et à la pensée iconoclaste qu'on leur associe d'ordinaire. Ainsi, on peut lire dans les notes autobiographiques de Barthes « Si une analyse scientifique de la bêtise serait possible, toute la TV s'effondrerait ». Et Deleuze voit dans la télévision avant tout un instrument de contrôle social auquel il faudrait opposer une résistance de partisans. C'est seulement dans les années 90 que le discours intellectuel commence à incliner en faveur de la télévision. En témoignent les écrits du sémiologue François Jost, du philosophe Jean-Jacques Wunan-Burger ou du sociologue Dominique Voltan qui affirme dans la préface à son étude « Éloge du grand public »,« J'aime la télévision ». Dans ce contexte, évidemment, on ne peut pas passer sous silence le livre de Pierre Bourdieu sur la télévision, dont la parution en 1996 se place chronologiquement entre les romans de Kundera et de Toussaint. Alors que la satire que fait Kundera de la relation entre la télévision et la sphère intellectuelle paraît anticiper la critique discursive des médias par Bourdieu, le roman de Toussaint se présente comme un adieu désinvolte au geste moralisateur du sociologue pour qui la télévision représente un danger pour la vie politique et démocratique. Au centre de la critique des médias que fait le roman de Kundera, pour commencer avec celui-ci, se trouve le portrait satirique de l'intellectuel français fictif Jacques-Alain Berck, qui présente une ressemblance incontestable avec des modèles réels comme Bernard Kouchner, André Glucksmann ou Bernard-Henri Lévy. Avec l'exemple de Berck, Kundera dresse le psychogramme d'un type de personnage narcissique et exhibitionniste, essentiellement médiatisé, qu'il baptise danseur. Le danseur ne laisse échapper aucune occasion de se mettre en scène devant un public imaginaire et de s'enivrer de sa propre importance. Il séduit la caméra et il est séduit par elle. En tant que personnage public, il excelle surtout dans la faculté de, citation, « se montrer plus moral, plus courageux, plus honnête, plus sincère, plus disposé au sacrifice, plus véridique que les autres », technique que le narrateur caractérise comme judo-moral. La manière comment fonctionne cette espèce de chantage psychologique se montre dans un épisode où Berck déclare devant la caméra de vouloir renoncer à un salaire mensuel au profit des enfants affamés de Somalie, jetant dans l'embarras ses interlocuteurs qui sont avec lui sur scène. La critique de la télévision de Kundera fait partie d'une critique de la culture plus vaste et consciemment anachronique qui s'articule essentiellement sur trois axes. Le nivellement de la frontière entre intimité et espace public, l'instrumentalisation et l'esthétisation publique de la morale et l'accélération générale des conditions de vie qui détruisent la capacité au plaisir et au bonheur. Pour Kundera, l'actualité ou la vie moderne tout court se déroule sous le signe de la vitesse, de l'oubli, du vide, de la perte de soi, de l'impossibilité du plaisir et de la simulation dont la télévision est le chiffre universel. À cette actualité peu avenante, Kundera oppose l'utopie nostalgique de la culture raffinée du XVIIIe siècle qui ne s'évoque pas seulement au niveau de l'histoire, mais aussi à travers la forme même du roman qui s'oriente sur le modèle du conte philosophique. Chez Kundera, la forme littéraire garde son authenticité. Le roman n'est pas encore contaminé par l'objet de sa critique. En fondant son œuvre si décidément sur la différence esthétique par rapport à la télévision, Kundera s'avère clairement un épigone de la modernité. La télévision de Toussaint parut 2 ans après le roman de Kundera. En termes de perspicacité analytique, il ne lui a rien à envier. Et pourtant, il est fondamentalement différent. Dès la fameuse première phrase « J'ai arrêté de regarder la télévision », Toussaint ne cesse pas de lancer des appâts intellectuels à ses lecteurs bienveillants. Même si, parfois, de la part de la critique, on a mis en doute l'originalité des réflexions théoriques faites par le narrateur, on est quand même communément d'accord de reconnaître la présence implicite des idées de McLuhan, Virilio, Baudrillard, Postman, Bourdieu, Arnheim peut-être et autres. Et on ne manque pas d'affirmer que Toussaint mènerait à l'absurde, avec humour et ironie, le geste moralisateur des apocalyptiques de la télévision. Tout cela est bien vrai et mérite d'être considéré. Et pourtant, il me semble qu'on passe au niveau de l'esthétique littéraire, à côté de l'essentiel. Or, il faut comprendre que le roman de Toussaint ne se contente pas de ridiculiser l'attitude du pessimisme culturel vis-à-vis de la télévision, si présente dans la littérature en général et dans le roman de Kundera en particulier. Chez Toussaint, ce sont plutôt le roman et la forme littéraire eux-mêmes, encore sacro-saints chez Kundera, dont la prétention de représenter le monde de manière authentique n'est plus prise au sérieux. En d'autres termes, en soulignant constamment l'inauthenticité de sa propre écriture, Toussaint persifle la réflexion littéraire sur les médias elle-même. Après avoir fait savoir, dans la toute première phrase du livre, de n'aller plus jamais regarder la télévision, le narrateur se voue à une description détaillée du téléviseur éteint. Cette description embrasse déjà tout le programme esthétique de Toussaint. La description commence sur un ton neutre, puis se permet la remarque malicieuse que le téléviseur repose sur un pied ayant la forme d'un mince livre noir ouvert à la verticale. Et se termine sur l'idée absurde et puérile qu'on pourrait saisir l'appareil comme une langouste par ses antennes en forme de V et le plonger dans une casserole d'eau bouillante pour s'en débarrasser encore plus radicalement. Ici, Toussaint se moque de plusieurs topiques de la représentation littéraire de la télévision à la fois. L'importance culturelle du téléviseur, qui est devenu un meuble commun à tout appartement. Le caractère fétiche du téléviseur, du pouvoir magique duquel on ne peut se débarrasser que par un acte d'exorcisme. Et la lamentable infériorité culturelle du livre, qui se concrétise de façon comique dans la forme du support du téléviseur. Cependant, l'ironie de Toussaint porte également sur les procédés littéraires mêmes. Non seulement les descriptions minutieuses des choses dans le nouveau roman, mais aussi le pouvoir poétique de l'art moderne en général, que Arthur C. Danto a caractérisé d'une formule célèbre comme « transfiguration du lieu commun »,« transfiguration of the commonplace ». Dans la façon pas sérieuse, comment Toussaint décrit le téléviseur comme objet, il ne se moque donc pas seulement des pensifs de la critique des médias, mais aussi de la fonction de la littérature et la télévision moderne même. Il déconstruit symboliquement la différence entre la littérature et la télévision sur laquelle le roman de Kundera insistait encore tout naturellement. Toussaint quitte le monde mélancolique de Kundera, de Bourdieu et de Popper, qui confronte le lecteur en permanence avec sa propre perte de niveau culturel. Car il s'avère bientôt que le rigorisme moral du narrateur est moins grand qu'il ne paraissait. En découvrant le pharisaïsme charmant de son protagoniste, Toussaint dénonce l'attitude infatuée de soi de tous les critiques de la télévision qui croient pouvoir se situer en dehors du phénomène qu'ils critiquent. Il est vrai que la décision de renoncer à la télévision permet au narrateur de découvrir d'autres dimensions de la vie. Il va à la piscine, fait des achats, se promène. Mais il est évident que dans leur banalité, ces occupations ne se distinguent pas tellement de la télévision. De toute façon, elles sont très loin des propositions de haute valeur pédagogique qui normalement se recommandent comme alternative à la consommation de la télévision. Mais Toussaint pousse encore plus loin la déconstruction des hiérarchies culturelles. En ironisant sur les activités intellectuelles du narrateur, qui est en train de préparer une étude sur Titien et rend visite à un musée à Berlin, il devient clair que celles-ci ne sont pas censées de servir de contrepoids sérieux à la télévision. Tandis que les recherches scientifiques du narrateur culminent dans la découverte que les initiales de Titien sont TV, au musée, il s'occupe avec beaucoup plus d'intensité de son sandwich que des tableaux autour de lui. Pour illustrer l'inconséquence sympathique de son narrateur, et par là, les apories d'une critique radicale des médias, Toussaint munit son protagoniste, pour ainsi dire, d'un téléviseur implanté. L'abandon de la télévision provoque chez le protagoniste une obsession pour tout ce qui est relié à la télévision ou fait penser, dans la vie quotidienne, aux dispositifs télévisuels habitués. À l'aide de la technique de la chosification comique déjà utilisée dans le cas de la description du téléviseur éteint au début du roman, Toussaint invertit simplement la métaphore familière de la télévision comme fenêtre sur le monde, en montrant comment cette fenêtre peut se transformer en supplément du téléviseur. Ainsi, le narrateur abstinent de la télévision n'observe pas seulement à travers une fenêtre de son appartement, ses voisins en train de regarder la télévision, mais aussi une jeune femme nue dans l'encadrement quasiment télévisuel de sa fenêtre illuminée dans la nuit. Toutefois, Toussaint ne se limite pas à jouer avec le topic que la télévision entraîne une intériorisation de la perception télévisuelle dont on ne peut plus se débarrasser. La manière comment le texte se développe et s'enrichit d'associations proliférantes à partir du titre télévision, ou du mot du titre télévision, fait également penser, une fois de plus, à la parodie de techniques littéraires modernes comme la théorie des générateurs développée par le nouveau roman. Si la théorie des médias et la critique de la télévision en particulier deviennent l'objet, dans le comportement du protagoniste, d'un persiflage implicite, cela n'exclut pas qu'il y ait aussi des persiflages explicites, comme par exemple dans les réflexions aussi prétentieuses que triviales du narrateur sur la codification différente de la référence à la réalité en peinture et à la télévision. Il est significatif que c'est le narrateur lui-même s'en moque le premier. La télévision offre le spectacle non pas de la réalité, quoiqu'elle en ait toutes les apparences, en plus petit dirais-je, je ne sais pas si vous avez déjà regardé la télévision, mais de sa représentation. Tout dépend ici de l'incise. Sans l'incise, la phrase se lirait comme une observation tout à fait sérieuse, bien que peut-être pas trop originelle. L'emploi du terme « spectacle », qui fait écho de la fameuse étude de Guy Debord sur la société du spectacle, donne à cette observation un certain ton de connaisseur. C'est seulement le commentaire saugrenu, intercalé entre parenthèses, qui donne à ce passage sa véritable portée, en signalant que l'inauthenticité de la télévision a dès lors pris possession de l'esthétique littéraire même, Toussaint marque ses distances avec une littérature qui, par l'acte de critique, croit encore pouvoir se mettre à l'abri du critiqué. En donnant une expression littéraire à cette condition, et avec ça je termine, Toussaint s'avère, à la différence de Kundera, le représentant d'une esthétique authentiquement postmoderne. Merci.
Ce projet a son origine dans le fait que Jean-Philippe Toussaint a confié en 2015, c'est déjà longtemps, les archives du roman La Réticence à l'UMR Littéar, à laquelle j'appartiens, avec un triple objectif. Numériser les brouillons, les mettre à disposition du public, bon, permettre de nouvelles recherches, mais aussi permettre de nouvelles créations. Bon, La Réticence, c'est sans doute le roman le moins connu, le moins étudié, on en a déjà un peu parlé, le seul qui a reçu un accueil critique réservé, décevant. Donc, il y a un enjeu qui est de susciter un regain d'intérêt pour le roman, peut-être de le regarder d'un œil neuf, et puis, selon le terme de Jean-Philippe Toussaint, l'objectif, c'est d'ajouter de la création à la création, donc de prendre ce fonds d'archives comme un point de départ. Alors, bon, nous avons relevé le défi et accueilli les brouillons de La Réticence dans ces superbes boîtes d'archives jaunes. Ça représente un fond cohérent et complet de 2700 feuillets à peu près de brouillons, qui est le matériau idéal pour une étude génétique, justement parce qu'il est cohérent et complet, mais qui est totalement impubliable tel quel, bien sûr, sur support papier. Ce qu'on peut dire également, c'est que c'est du tapuscrit, mais du tapuscrit à la machine, qui est abondamment corrigé à la main. Alors, la première chose que nous avons faite sur ce fond, c'est un inventaire. Un inventaire matériel, d'abord, différentes qualités de papier, le format, la couleur, le filigrane, etc. Des différents types de corrections, de ce qu'on pouvait y trouver, à part les brouillons, il y a quelques documents, notamment le dossier de presse du film Monsieur, sur lequel travaille actuellement une de mes étudiantes, pour voir s'il peut y avoir un lien entre les deux. Bon, l'objectif aussi de cet inventaire, et ça va être assez utile, je pense, pour les chercheurs à venir, c'est d'établir la concordance avec le texte définitif. Donc, je ne sais pas si oui, on arrive à voir sur les colonnes de droite, il y a une colonne référence un paragraphe, puisque bon, on a renuméroté les paragraphes qui ne sont pas dans le texte publié, mais qui malgré tout sont en nombre fini. Et puis concordance avec les pages du texte publié. Et puis, ça a été l'occasion de faire quelques premières hypothèses génétiques, et puis de faire quelques premiers constats sur les découvertes qu'on pouvait faire dans ces brouillons. Je vais vous parler un peu plus loin. Donc ça a été réalisé par moi-même, avec la contribution d'une collègue, Françoise Leriche, et d'un étudiant que certains d'entre vous ont rencontré, Volodia Dorlic. Parallèlement, le service interuniversitaire de documentation qui conserve momentanément ces brouillons les a numérisés, ce qui a pris une bonne année et qui a mobilisé pas mal de monde, mais les gens ont été très, très impliqués dans ce travail. Mais c'est une numérisation en mode image. Lundi soir, Patrick a expliqué que les brouillons avaient pu être océrisés pour ce qui a été mis en ligne. Là, c'est pas possible parce que c'est tapé à la machine à écrire, donc c'est beaucoup trop inégal comme frappe. Et si on fait ça de façon automatique, on a plus de travail pour corriger que donc on peut pas les traiter. Donc c'est numérisé en mode image et il faut obligatoirement les transcrire. Et là, c'est le cœur du projet, donc voilà, petite machine à écrire, qu'on trouve d'ailleurs dans les brouillons, pour signifier que ce sont des brouillons non numériques. Donc ce superbe dessin, au passage, il est grand format, hein, c'est un A4 presque. Moi, il m'interroge sa couleur rouge agressive quand on est au milieu de ces brouillons tout un peu pâle. Passé en plus, donc assez pâle, d'un coup ça surprend. Et je me suis toujours demandé si l'emploi du feutre rouge et du grand format ne révélait pas une sorte de rapport un peu conflictuel, un peu tendu de Jean-Philippe Toussaint avec sa machine à écrire dans ce roman dont on sait qu'il lui a coûté quelques peines. Mais par ailleurs, il parle très bien de sa machine à écrire dans L'urgence et la patience, vous l'avez tous lu. Bon, l'intérêt aussi de ce fond, justement, c'est que c'est la fin d'une période de l'œuvre, puisque c'est le premier fond qui a été de brouillon qui a été conservé. Les précédents ont disparu. Et ensuite, on passe au traitement de texte. Donc, c'est une autre histoire et une autre méthode de travail. Alors, pour en revenir à notre travail à nous, il s'agit donc de proposer une procédure de transcription. Bon, alors là, il y a eu un faux départ sur lequel je ne m'apesantirai pas, mais on avait bien lancé une plateforme de transcription en 2016, en présence d'ailleurs de Jean-Philippe Toussaint, de Patrick Socquet, et puis elle a fait long feu, pour des raisons diverses. Donc, on a recommencé, et la nouvelle s'intitule TACT, Transcription, Annotation de Corpus Textuel. Elle est élaborée par Élan. Alors, on a beaucoup parlé d'Élan ces derniers jours, l'élan de l'écriture et tout, donc ça va très bien. Mais ça veut dire plus modestement équipe littérature et arts numériques. C'est l'équipe donc du labo, une équipe d'ingénieurs de recherche, d'ingénieurs d'études. Et elle est accessible à tous à partir de maintenant. avec le lien que vous pouvez tous noter, puisque je ne doute pas que vous allez vous précipiter, c'est le but. Voilà. Alors moi, j'ai fait le choix, pour tenir les délais si possible, de ne pas aller sur les sites, de faire des captures d'écran. Mais vous pourrez y aller vous-même. Donc cette plateforme est une plateforme multiprojet, vous voyez qu'il y a de tout, et notamment celui-ci, c'est la présentation par les informaticiens d'Elan de la plateforme elle-même lors d'une Science Week qui a eu lieu à Grenoble il n'y a pas longtemps. Voilà, on a aussi des projets étrangers, puis ça sert aussi à mes cours. Bon. Donc, cette plateforme multiprojet abrite projet réticence, qu'on voit ici, qui est, pour lequel l'inscription est libre, donc avis aux amateurs, qui ne demande pas de compétences particulières, juste un peu de patience, et il y a une aide en ligne qui donne toutes les explications. Alors, je vous montre un peu à quoi ça correspond. Et les transcriptions sont validées ensuite, hein, je vous rassure. Faites des bêtises, on les corrige. Enfin, on les corrige. Pour l'instant, je les corrige. Donc, quand on clique sur quand on s'inscrit et qu'on clique sur transcrire, on arrive là, on a le choix. Pour l'instant, il y en a 250 feuillets qui sont déposés, mais après, il y aura tout. On a accès à ce qu'on appelle les médias, les fiches de transcription. On en choisit un. Et on se trouve avec, à gauche, le fac-similé. Alors, quand on est sur son écran, le fac-similé, on le voit bien. Et puis, on peut l'agrandir. Quand on projette, c'est toujours très mauvais. Hein, mais je vous rassure, on y arrive. Donc, à gauche, le fac-similé. Et à droite, eh bien, une zone dans laquelle on recopie d'abord le texte tapuscrit. Et puis aussi les annotations manuscrites. Là, arriver à déchiffrer, mais on y arrive. Surtout, tous ceux qui sont enseignants sont très exercés à déchiffrer les écritures. Et à droite, dans la colonne qu'on voit ici, il y a ce qu'on appelle les balises, hein, terminologie de TEI, c'est-à-dire, alors c'est, bon, on a essayé de faire, ils ont essayé de faire une interface ergonomique simple à utiliser, c'est-à-dire que pour marquer, par exemple, que ceci est un paragraphe, ce que là, ça n'est pas d'ailleurs, c'est pas un bon exemple, mais enfin, ou qu'une phrase est raturée, on va cliquer sur DEL et ça va raturer le texte. Alors après. Ça, c'est assez simple à utiliser, ça ne demande pas de compétences. Derrière, il y a un code source qui ressemble à ça, mais qui a l'avantage d'être en XML TEI, c'est-à-dire que ça pourra être réutilisable par d'autres projets, c'est un langage un peu universel, pour ceux qui le comprennent, mais ce n'est pas un langage maison. Mais ça, on n'est pas obligé d'y venir, et quand on a fini de transcrire, on peut faire la visualisation, et ça donne ceci. Voilà. Donc là, on voit quand même un peu mieux à quoi ça correspond. Il y a le... Il y a Kundera qui est barré. Alors... voilà. Justement, je vais m'arrêter un peu sur cet extrait. Mais Laurent, il a vu tout de suite. Hein. Je vais m'arrêter un peu sur cet extrait parce que ce brouillon-là, parmi les 2700, il condense un peu tout ce qu'on peut trouver. Bon, donc, d'abord, techniquement, en rouge, il y a les suppressions, les ratures. En vert, les ajouts qui apparaissent entre les lignes. Et ce qui est en marge, comme ici, ce sont les mots qui sont écrits, vous le voyez ici, en marge du texte, en haut, en bas, à gauche, à droite, mais qui ne sont pas insérés. C'est-à-dire qu'on ne sait pas à quel endroit du texte ils doivent arriver. Alors que tout le reste, même si c'est écrit dans les marges, parce qu'il faut trouver de la place, c'est rattaché par des flèches très précisément au texte. Donc on a choisi de laisser en marge ce qui était pas inséré, et de mettre entre les lignes, même quand c'est long, le texte qui a son point d'ancrage. On n'a pas essayé de restituer l'apparence visuelle, parce qu'il y a le fac-similé pour ça, donc on a fait quelque chose d'assez simple. Alors, pourquoi cet exemple ? On peut observer sur ce feuillet des choses qu'on retrouve dans beaucoup de brouillons. D'abord, il y a effectivement des coquilles et quelques fautes d'orthographe. Bon, les coquilles, c'était inné, voilà. Mais c'est un brouillon, hein, donc. Ensuite, il y a une apparition, et il y a une apparition d'Hélène. Pour ceux, il y a peut-être quand même parmi vous, qui ont lu La Réticence, on dit toujours qu'il n'y a pas de personnage féminin dans La Réticence. Mais dans les brouillons, il y en a un, et qui est très présent, et qui s'appelle tantôt Hélène, tantôt Madeleine. Enfin, plutôt Hélène, en définitive, mais il y a une hésitation. Et ce personnage qui a disparu, il joue un rôle dans plusieurs... mais qui est présent quand même allusivement dans le roman, mais n'apparaît pas. Dans les brouillons, il joue un rôle et il a une relation amoureuse avec le protagoniste, ce qui infléchit sensiblement l'interprétation qu'on peut faire du roman, de la réticence du protagoniste à aller voir ses amis, en même temps que ça motive sa venue à Sassuolo. Bon, je n'ai pas le temps de développer tout ça, mais vous voyez que c'est assez riche de potentialités. Et on peut noter rapidement que sa disparition, ainsi que celle de nombreux autres éléments, rend le roman beaucoup plus énigmatique que les brouillons. Dans les brouillons, il y a plein d'explications qui ne sont pas dans la version définitive. Et puis, il y a les plaisanteries, ça n'a pas échappé. Et notamment, ici, le Kundera, qui est barré, mais qui est surtout, d'abord, mis enfin, à côté du journal Marie-Claire, au titre des publications féminines. Dans un entretien de 2002, Jean-Philippe Toussaint déclarait « Les brouillons sont tordants, mais j'ai supprimé tout ce qui était drôle. » Alors, tordants, un petit peu quand même, ce n'est pas le cas des 2700 feuillets, mais il y a quand même quelque chose assez drôle dans ces brouillons. Alors là, c'est un autre feuillet qui est avant dans la boîte, il est numéroté avant, mais suivant sans doute dans l'écriture. C'est la même scène avec Hélène. On retrouve la plaisanterie sur Kundera, un peu même avec un peu plus d'insistance, deux livres reposés, des bêtises. Alors c'est barré ça quand même, hein, mais le dernier Kundera, toujours à côté de Marie-Claire. Et le verre d'eau peut-être pour digérer la lecture, c'est assez étouffe chrétien, Kundera. Bon. Alors ce qu'on voit aussi sur ces deux feuillets, c'est le processus d'écriture. Je reviens sur le précédent. Vous avez vu qu'en marge, il y a ces deux adjectifs qui apparaissent, bizarroïde, ictioïde. Et il était question d'un cendrier, donc le narrateur fume sur le lit, et je fumais une cigarette, donc je déposais la cendre, alors d'abord dans le paquet vide, puis après dans un cendrier. Et ensuite, ce cendrier, il est décrit bizarroïde, ictioïde et bleu clair, avec des écailles de porcelaine que je tenais à la main. Bon. Donc, ces mots bizarroïdes, ictioïdes sont apparus, semble-t-il, au fil de la frappe, enfin, ou après, et ont donné lieu à cette description. Cette description, on va la retrouver dans le feuillet suivant. Même chose, mais là, on remarque que c'est Hélène qui fume et qui utilise le cendrier. Et en fait, cette description, on va la retrouver dans les mêmes termes, dans une quinzaine de feuillets. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que la particularité de ce fond, c'est que pour un même passage, un même paragraphe, il y a entre 15 et 30 feuillets. Parce que chaque fois, dès que c'est corrigé, il retape, il recorrige, il retape, il recorrige. Il a décrit lui-même un processus un peu obsessionnel. Bon, alors... donc, il y a une quinzaine de feuillets avec ce cendrier bizarroïde et ictioïde. Et la description demeure, même quand le cendrier change de main, passe à Hélène, change de position sur le lit, et même à la fin, change de pièce. Là, j'ai mis juste deux extraits. Vous avez, ça c'est dans la boîte 3, on n'est plus du tout avec Hélène, elle a probablement disparu dans cette phase-là du roman. On est dans une scène qui va être conservée, vous voyez, les deux textes sont presque semblables, hein, avec la réticence texte définitif. Donc on est dans le salon de la maison de Biagi, et c'est le gardien qui est là, et c'est lui qui fume. Et c'est lui qui fume, et d'abord il vient déposer sa cendre dans le petit cendrier bizarroïde, ictyoïde des bleus clairs. Il a perdu ses écailles de porcelaine et il est descendu de la chambre au salon, mais il a toujours, grosso modo, il est toujours décrit comme ça. Et en fait, dans la réticence, le texte est presque le même, je vous laisse le lire, mais le petit cendrier, il est hexagonal. Bon, tout ça pour ça, on a envie de dire. Mais plus sérieusement, j'ai pris cet exemple, bon d'abord parce qu'il était assez réduit, mais en même temps significatif, pour montrer que la plongée dans ces brouillons, c'est une occasion d'observer la genèse de l'écriture, bien sûr, mais la genèse aussi du minimalisme. C'est pas un premier jet, le minimalisme. C'est au contraire, il y a un travail de réduction à l'essentiel après tout un détour par une ornementation et même une ornementation qui est presque un peu baroque, enfin ou kitsch en l'occurrence, et puis par l'humour aussi. Bon, et tout ça, ça disparaît. Donc, un roman à réévaluer. On a beaucoup dit que c'était un roman raté, en marge, tourné vers le passé du nouveau roman. Moi, je ne suis pas si sûre. C'est peut-être aussi l'amorce, mais pas encore vraiment marquée, d'un tournant de l'œuvre. On peut peut-être se demander si cette Hélène ou Madeleine n'est pas une figure annonciatrice de Marie, si les brouillons de la réticence ne peuvent pas fournir une forme d'avant-texte du cycle de Marie. Et puis une réévaluation stylistique. Alors, je passe sur tout ce qu'on pourrait dire sur la ponctuation. Bon, là, on est bien sûr dans une écriture de la lenteur. Alors moi, en revanche, j'accélère parce que je voudrais vous parler aussi du site. Dernière chose sur cette interprétation possible. Dans un entretien de 98, Jean-Philippe Toussaint dit « Dans la réticence, il y a sans doute pour certains trop d'éléments qui manquent. Pour ceux qui réfléchissent, qui ont envie de reconstruire quelque chose, c'est assez riche. Eh bien, quand on se plonge dans les brouillons, on comprend mieux le sens de cette... Il y a effectivement beaucoup de choses qui manquent, mais qui y étaient. Ça donne des pistes pour une réinterprétation. Alors, le site de visualisation que je vais vous présenter très rapidement permet à chacun de se faire une idée sur ces questions. Ce site, alors il y aura des liens avec le site Jean-Philippe Toussaint.com, mais là c'est celui qui est hébergé sur le serveur de l'université et qui vient d'être mis au point. Vous voyez les onglets, accueil, le projet, l'inventaire. Alors l'inventaire, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Ce qu'on peut en dire, c'est que l'intégralité des brouillons de la réticence, ça c'est quand même la nouvelle du jour, numérisée, se trouve accessible en mode image sur ce site. Voilà. Ça, au moins cet aspect-là, on l'a réussi. En revanche, il n'y a pas les transcriptions. Certaines y sont. Donc, quand vous cliquez sur l'onglet exploration des brouillons, vous arrivez à ces brouillons par boîte, etc. Bon. Au fur et à mesure que les transcriptions seront faites, elles seront déposées sur ce site et utilisables. C'est bon. On peut donc déjà, même sans les transcriptions, parcourir le fond, c'est finalement pas beaucoup plus laborieux que de le faire feuille à feuille, et y faire des trouvailles, un plan comme ici, le dessin, ou d'autres trouvailles, mais je passe, vous laisserez chercher, comme ça il n'y a que moi qui les connais pour l'instant. Ce que je tiens à vous présenter, c'est les autres onglets de ce site. Un onglet expérimentation, et là, de toute façon, je ne peux pas vous le montrer parce que ça ne marche pas, mais il y a notamment une expérimentation graphique qui a été faite par un web designer de Grenoble. Et puis, il y a des vidéos, d'ailleurs, vous irez voir, où il a présenté il a fait une sorte de loop, enfin bon, qui est... Alors, bien sûr, ça n'est fait que sur quelques feuillets, mais c'est un peu un modèle de ce qu'on pourrait faire, éventuellement. Et ensuite, l'onglet création, où on retrouve les créations qui ont déjà eu lieu, mais qui étaient déjà visibles sur le site JP Toussaint, le film Réticence, tout ça sont des créations d'étudiants, et c'est l'intérêt aussi, c'est que c'est un travail qui a engagé beaucoup d'étudiants, et qui en engagera encore, une création sonore, une exposition, etc. Et d'autres à venir, pour répondre aux vœux de Jean-Philippe Toussaint d'une interactivité exigeante. Et donc, en conclusion, il s'agit d'un projet collaboratif, mais qui suppose donc la collaboration, et pas question que je continue à faire toute seule ou avec mes étudiants. C'est une façon de considérer les archives comme vivantes, et notamment par cette ouverture à la création, avec l'implication d'un auteur vivant. Et ce sera mon dernier mot. Je tiens à remercier vraiment Jean-Philippe Toussaint pour cette occasion qu'il nous a fournie de ce travail, et surtout pour sa confiance, sa patience et sa générosité. Je vous remercie.
Je connais Ange depuis longtemps. J'ai un souvenir très précis dans un village corse. Au début des années 80, où il m'a annoncé qu'il était à la Villa Médicis. Donc ça doit te rappeler quelque chose, je ne sais pas quelle année c'était, tu te souviens mieux que moi.
C'est l'été 81.
Voilà, donc j'ai un souvenir très précis de l'été 81, Ange qui me disait qu'il était pensionnaire à la Villa Médicis, et je lui disais, ah comme c'est bien, formidable. Et donc ensuite, on s'est... on a travaillé ensemble, mais je vais faire un saut dans le temps très rapidement entre 81 et 2007, parce que en 2007, toujours à cette Villa Médicis à Rome, mon ami et collègue Olivier Rollin présentait un cycle qui s'appelait Aimer la littérature, Amar et la littérature, et il demandait à un certain nombre d'amis et collègues de choisir un écrivain français ou francophone pour en lire des extraits et le présenter au public italien de la Villa Médicis. Et je me souviens que j'avais choisi, ce qui peut-être vous n'auriez pas tous deviné qui j'allais choisir, j'avais choisi Camus, et pour le présenter, plutôt que de faire des lectures de Camus dans les conditions habituelles qui étaient demandées, j'ai proposé à Ange de faire une collaboration, et en réalité nous avons fait à ce moment-là en 2007 ensemble un film, enfin c'est surtout lui qui a filmé d'ailleurs, parce que c'est un artiste remarquable, et en plus nous avons tourné en Corse un film qui s'est appelé, c'est un très joli titre pris à Camus, mais il n'empêche très, très joli titre, « Hors du soleil, des baisers et des parfums sauvages ». Et donc, nous avons réalisé ensemble ce film. Si j'étais doué, je continuerais à parler en passant quelques images, mais je pense que je vais un peu perdre le fil. Peut-être que, Ange, tu peux dire quelque chose. Tu te souviens de ce projet? Et comme ça, je pourrais montrer quelques images.
Oui, enfin, je me souviens, alors avant de ce film, au début aussi des années 80, le premier rapport que j'ai eu avec Jean-Philippe autour de l'image, autour de la prise de vue, Madeleine avait fait un très beau film qui s'appelait Madeleine, donc l'épouse de Jean-Philippe, a fait un très beau film qui s'appelle Sénèque. Donc, je ne vais pas vous savez qui est Sénèque. Et j'en avais été l'acteur principal. mais j'avais été donc aussi ébloui lorsque on arrêtait de filmer et que Jean-Philippe faisait des synthèses, des réflexions autour des prises de vue, autour de l'avancée du film. Et là, j'ai compris de suite qu'en plus d'être, enfin, qu'il soit un écrivain, il était aussi un cinéaste. Voilà, j'ai déjà fait un peu.
C'est parfait, j'ai réussi à passer quelques images du film. Et donc, j'ai eu cette collaboration. Alors ça, c'est quelques images. En fait, ce qui me plaisait beaucoup dans ce projet, en choisissant Camus, c'était d'évoquer cette Méditerranée intemporelle qui était déjà très présente dans Fuir. Fuir, qui est un des romans du cycle de Marie, qui se passe à l'île d'Elbe. Mais c'est une île d'Elbe, en fait, qui est très inspirée par la Corse que je connais. Certaines criques décrites dans Fuir sont des criques que Ange connaît très bien, que Madeleine connaît très bien, que je connais très bien, qui sont situées en Corse. Et j'avais simplement gardé ces décors que je connaissais très bien, ces décors intimes, et je les avais situés sur une carte à l'île d'Elbe. Toute l'action se passe à l'île d'Elbe, mais moi... Et donc, nous avons mélangé aux scènes plus camusiennes des noces à Tipaza, je lisais, où nous avons également inscrit un certain nombre de scènes de Fuir. Donc c'était à la fois le côté méditerranéen, intemporel. Et en fait, quand on connaît le travail de Ange Leccia, on voit cette proximité. Le travail de Ange Leccia est très influencé par ses origines corses, et la présence de la mer, la présence du ciel, la présence de cette Méditerranée intemporelle dont parle Camus, est quelque chose qui touche beaucoup Ange. D'ailleurs, en relisant les textes de Noces et de l'été, il y a peut-être encore plus pour Ange que pour moi, une sorte de proximité physique, des paysages, des sensations, du sel sur la peau, des caresses du soleil. Enfin, je ne vais pas vous refaire du Camus.
Moi, je peux simplement dire, moi qui ne sais ni lire ni écrire, j'ai eu la chance que Jean-Philippe me lise, que ce soit Noces ou l'été de Camus, et c'était extraordinaire de pouvoir accéder au sens de cette littérature avec les mots, avec la voix de Jean-Philippe. Bon, je plaisante, mais j'avais lu ces livres de Camus, mais relu par Jean-Philippe, c'était une espèce de boucle de mise en abîme qui était extraordinaire pour moi, donc qui me faisait aussi d'une manière introspective remonter certaines sensations que la caméra a pu capter. Alors, tu montres plus les extraits, dommage, mais ouais. C'était très facile après de pouvoir s'engouffrer dans cette méthode de travail et faire le film.
Bien, d'ailleurs, après cette collaboration en 2007, c'est vrai que nous sommes restés très proches. Ange m'a associé à un projet l'année suivante d'un film qui était produit par la Fondation Louis Vuitton, l'espace contemporain Louis Vuitton, où j'ai pu aller tourner un film en Chine, qui a été le début d'un certain nombre de travaux que j'ai fait, vidéos assez expérimentaux. C'est grâce à Ange que j'ai pu le faire. Et donc, depuis 2007, nos relations amicales et professionnelles se sont encore plus resserrées. Et c'est donc tout à fait une logique complète que Ange participe aussi, avec Anna, ma fille, à l'exposition qui sera montrée ce soir, vernissage à 20h, vous êtes évidemment tous attendus et conviés, et où vous verrez ou reverrez le travail d'Ange. Il y a une vidéo originale qu'il a créée spécialement pour l'exposition de ce soir. Il y a aussi un travail où il a relu ou revisité des rushs que j'avais moi-même tournés en Chine, et il y a aussi des images tournées par Ange sur des lectures de Fuir. Donc on a un aperçu du travail de Ange. C'est donc tout à fait naturel qu'Ange soit là ce soir. D'ailleurs, dans le très beau dossier que vous avez tous vu dans Quinzaine, c'est vrai que et l'un et l'autre étaient associés. Je vous invite à lire l'entretien qu'a donné Ange et le texte qu'a donné Pascal Thorez. Je passe à Pascal Thorez maintenant parce que...
On a un projet aussi avec Monet.
Alors voilà, alors, moi j'aime bien garder les projets secrets, mais je suis quand même heureux de vous annoncer, puisqu'il le souhaite, notre prochain projet, qui est un très très beau projet. Il y a un nouveau musée qui va se construire à Tokyo, qui s'appelle, tu te souviens, Amazon, non pas... Ben bon, peu importe. Il y a un grand musée qui va se créer à Tokyo et qui, en association avec l'Orangerie à Paris, va présenter un travail autour de Monet. Et ils ont fait une commande à Angers d'une vidéo extrêmement ambitieuse et avec un format quasiment aussi grand que les murs de l'Orangerie. Donc, c'est un énorme écran. J'ai oublié, je ne sais pas si tu te souviens, des 40 mètres d'écran. Enfin, et donc, c'est une commande. Et Ange a proposé qu'on demande aussi à un écrivain d'écrire un texte. Et il a pensé à moi. Et donc, j'ai le plaisir, depuis un an, de réfléchir à un texte sur Monet. Et ce sera encore une fois une association fructueuse et associe aussi Monet qui est emblématique parce qu'il y a aussi chez Monet c'est à la fois c'est un peintre qui nous va bien à tous les deux puisqu'il y a cette présence de la fluidité, de l'eau, de quelque chose de très ténu et aussi bon, je commence déjà à la façon très émouvante dont Monet commence la série des nymphéas en gros à 55 ans et cette série des nymphéas sous différentes formes va l'occuper pendant les 30 dernières années de sa vie et c'est bon, c'est quelque chose de très beau, c'est un magnifique projet donc qui sera présenté en 2020 à Tokyo, dans ce, je vous donnerai le nom quand on l'aura retrouvé, à l'Orangerie à Paris, et puis si vous êtes un peu patient, il sera à Abu Dhabi. Voilà. Si vous préférez le voir à Abu Dhabi, bon, je donnerai les informations plus tard.
Mais je pense que Pascal connaît le musée au Japon.
C'est le nom du musée.
Mais non, je ne me souviens plus. C'est
à Omotesando ou Ginza?
Oui. Non. C'est au sud de Ginza vers Omotesando.
Non, on va vous faire un dessin. On a oublié le nom. Ginza. Alors. Je passe à Pascal Thorez parce que nous avons seulement un quart d'heure et ensuite nous allons être expulsés violemment de la salle. Pascal, nous nous sommes rencontrés après le livre Fuir. Je reçois parfois, souvent, du courrier. Maintenant, c'est plus des mails que je reçois. Et c'est une des lettres les plus extraordinaires que j'ai reçues d'un conservateur du Louvre, qui était Pascal Thorez, qui avait lu Fuir, et qui, je ne reprends pas sa lettre, ce qu'il disait de Fuir, plutôt complimenteur, et il me disait qu'il travaillait au Louvre, que le Louvre était fermé le mardi, et que si je le souhaitais, il pouvait me faire visiter le Louvre le mardi. Et donc j'ai saisi l'occasion, et j'ai rencontré pour la première fois Pascal Thorez en 2006, je pense, c'est 2006, c'était un moment extraordinaire, visiter le Louvre le jour de fermeture avec un guide de sa qualité qui m'expliquait tout sur les tableaux que nous voyons. C'était un moment très fort. Pascal a proposé de le refaire. Madeleine est venue, une autre visite. On s'est revus. Pascal a proposé qu'on fasse un travail ensemble, une collaboration. Les choses se sont mises en place et j'accélère un petit peu. En 2010, il m'a proposé de faire une exposition dans les salles Sully. Je te laisse peut-être expliquer plus précisément.
C'est vrai qu'un mardi ne suffit pas pour le Louvre, il en faut beaucoup. Mais c'était l'occasion, ce travail, la proposition du travail était de créer un livre sans texte pratiquement ou sans reliure, et c'est-à-dire de ça intégré dans un cycle d'exposition de la collection de Rothschild, dont j'étais alors le responsable, qui est une collection très secrète, très privée, qui est la collection donnée par le baron Edmond de Rothschild en 1935 au musée du Louvre et qui avait été à l'origine la création du département des arts graphiques, dans laquelle il y a des livres, il y a des dessins, de nombreux dessins, et essentiellement également des estampes. Et donc il y avait déjà eu ces expositions consacrées aux livres, façon de montrer le livre. Il y avait eu notamment le recueil Julienne des estampes de Watteau, également une exposition sur un ensemble très peu connu d'estampes commandées par l'empereur de Chine Qianlong à Louis XV à Paris, sous la direction de Cochin, enfin, quelque chose d'assez extraordinaire. Également l'iconographie de Van Dyck. Et également, il y avait un livre que je t'avais montré, surtout celle-là qui est venue la chose, qui est l'incunable, pour moi, le livre le plus précieux de la collection.
Le Dante.
Le Dante de Landino, qui est un incunable imprimé en 1584, avec toutes les illustrations réalisées en gravure d'après les dessins de Botticelli. Et effectivement, ça a été l'entrée. C'était ça. Et d'ailleurs, le Dante s'est retrouvé avec, évidemment, l'exposition, comme tu le sais. Et c'était vraiment comment inviter, finalement, pour compléter, mais simplement pour ouvrir de nouvelles directions d'interprétation de cette collection, le livre vers l'écriture en acte, pas l'écriture passée, soit Dante, ou que ce soit évidemment des compositions graphiques, mais essayer de lier l'ensemble des choses. Alors également, je précise que dans Fuir, il y avait ce moment où Marie, évidemment, se perd dans le Louvre. Donc c'était quand même le point d'accroche et de ce labyrinthe. Après, ça donnera une multi-ouverture, le labyrinthe étant un thème quand même qu'on aime bien chez un auteur sud-américain, universel évidemment. Ça devait être aussi l'un des guides de cette exposition.
Mais c'est vrai que c'est très émouvant pour moi. Quand j'ai écrit cette scène de la fuite de Marie au Louvre, quand elle apprend la mort de son père, j'ignorais que ça me mènerait moi-même dans la Grande Galerie avec Pascal Thorel. Je résume, je vais aller assez vite. En 2010, il a organisé un rendez-vous avec Henri Loirette, qui était le directeur du Louvre. Il en avait parlé. Et le projet, après le déjeuner, en réalité, Henri Loirette a validé l'idée du projet. Il a dit, il faut qu'on se revoie très vite. Moi, on avait fixé la date à 2012, on était en 2010. Il a dit, il faut qu'on se revoie très vite. J'étais un peu étonné de cette précipitation. Pourquoi ? En fait, lui, Henri Loirette, il fallait qu'il prépare. Très vite, on a fait une réunion. Et à partir de ce moment-là, à partir donc du printemps 2010 jusqu'au printemps 2012, j'ai travaillé tous les matins en me disant je vais faire une exposition au Louvre. C'était un moment extrêmement heureux. Je commencerai, il reste assez peu de temps, mais je commencerai par dire que en fait j'aime bien associer aussi d'autres personnes, et une des idées que j'ai eues parmi d'autres dans cette exposition, que je résume comme un hommage visuel au Louvre, c'est-à-dire l'exposition qui s'appelle Livre Louvre, c'est un hommage visuel au Louvre. Donc une des idées, c'était de convoquer un certain nombre d'amis écrivains. Et je suis quand même heureux de commencer par un ami présent. Voilà, et nous avons donc un ami présent. Cet ami, c'est Pierre Bayard. Et la personne qui est derrière lui, alors on peut rentrer dans... On croyait que c'était Diderot. Et en fait, il paraît récemment que ce n'est pas Diderot. Mais je vous assure que c'est Pierre Bayard. Et d'ailleurs, vous l'avez vu ici, je vous demanderai simplement de témoigner, on va passer une pétition et témoigner que c'est bien Pierre Bayard sur cette photo. Pour bien montrer que je n'ai rien inventé, nous avons également Pascal Thorès, il me semble. Voilà, Pascal Thorès avec un Goya. L'idée aussi pour moi était chaque fois d'associer un tableau du Louvre avec un ami écrivain. Je vais faire très vite, on ne va pas montrer une vidéo, mais on va montrer ses portraits. Jean Echenoz, tu vas me dire, c'est toi qui as eu l'idée de l'associer à Poussin.
Oui,
dis un mot de l'autoportrait de Poussin.
Oui, l'autoportrait, en fait, l'écriture géométrique, en quelque sorte, d'Echenoz, je trouvais que ça allait... Enfin, il y a une phrase de Poussin qui le reprend de Léonard, qui est la pittura cosa mentale, évidemment, la peinture est chose mentale. Et ça coïncidait quand même assez avec l'écriture et le personnage d'Echenoz. Voilà, donc voilà. On a finalement... Dans l'ensemble des cadres derrière, c'est toute la section d'or qui est révélée. Voilà pourquoi.
Alors, Philippe Dion, avec un magnifique portrait de
Antonello da Messine.
Antonello da Messine, et il y a une ressemblance mais physique même, quand même. Hein. C'est vraiment, c'est incroyable. Alors là, je cherchais à les associer, soit pour des raisons presque objectives, physiquement, soit plus intellectuelles, avec Carrère. D'ailleurs, c'est pour Carrère qui lui aussi a donné un très beau texte dans la revue Quinzaine. Et je l'ai associé aussi, c'est assez étonnant. Comment, en fait, il y avait sa place, quoi. Il manquait que lui dans ce tableau. Enfin, il y avait vraiment un espace vide. J'ai pas parlé au peintre, sa composition, il y avait un trou, quoi. Donc, je me suis dit, je pense que Carrère ajouterait à l'harmonie de la composition, enfin, objectivement. Hein, mais voilà, en tout cas, c'est assez étonnant d'ajouter Carrère ici. Et puis le dernier qui est assez aussi spectaculaire avec un Delacroix, notre ami Rollin. Avec un Delacroix. Alors, donc voilà, ça c'est une. Alors, vous pouvez aller voir sur mon site. Il y a aussi. J'ai eu l'idée avec ses amis écrivains de reconstituer un tableau de Fantin Latour. Quelques amis écrivains qui passaient au Louvre ce jour-là par hasard. Et donc, c'est une composition plus vaste. On n'a pas beaucoup le temps d'entrer là-dedans. Je voudrais vous montrer une des œuvres emblématiques. Alors, c'est une petite vidéo. Il y a une collaboration entre le musée du Louvre et Arte, le web d'Arte. C'est Madeleine Santandrea, ma femme, qui a réalisé ces vidéos. C'est des petites vidéos de 5 minutes qui montrent les œuvres. On va en passer une et on verra si on a le temps d'en passer une deuxième. En tout cas, la première que je voulais montrer, c'était mardi au Louvre, parce que je trouve que c'est très emblématique de cet hommage visuel au Louvre.
Et de ce qu'on pouvait faire au Louvre du temps de Lorette.
sans viser personne. J'ai eu l'idée de déplacer les livres de la collection de Rothschild dans cette salle Molien. Et donc cette idée de déplacer les livres de la collection de Rothschild en grande quantité, puisque oui, je ne sais pas s'il y en a plus de 100, 200, 300, des livres pour la plupart rares, précieux, certains exceptionnels.
On ne met pas en salle d'ordinaire.
Voilà, qui donc ici étaient mis de façon arbitraire, puisque je les pose sur le sol, mais je fais aussi d'une certaine façon comme une œuvre, comme une installation. Et mon idée, c'était de faire une pyramide. Alors, comme on est au Louvre, le mot pyramide, ça me plaisait. Une pyramide de livres au Louvre.
Les installateurs, ils ont fait une vidéo, mais ils n'ont pas fait une vidéo. Quand on fait une image.
Alors, l'idée de cette œuvre, mardi au Louvre, c'est de montrer l'activité du musée, du Louvre, le mardi, jour de fermeture. Et donc, c'est une des choses qui m'intéresse, c'est de montrer les coulisses, les choses qui se passent, les choses qu'on ne voit pas. Mais pour le cadre, en fait, j'ai voulu montrer un certain nombre d'éléments. J'ai fait construire un échafaudage devant le grand tableau La mort de Sardanapale. J'ai réussi à faire déplacer le tableau Les femmes d'Alger. J'ai pu le placer où je voulais dans le cadre.
Les peintres, est-ce que vous pouvez vous mettre en place?
Voilà.
Vous
pouvez commencer à vous le remettre.
C'est parfait. Voilà.
Action! Merci.
Après ça, j'ai travaillé en mettant des figurants, des gens sur l'image. Et ces gens donc, sont la plupart, donc, comme on l'a dit, des gens des métiers du Louvre. Et au départ, je suis parti de quelque chose de plutôt documentaire. Enfin, ils faisaient quelque chose de vraisemblable, de cohérent. Et puis, à l'arrivée, je les ai tous fait lire.
C'est
L'autre richesse du Louvre, ça je le dis tout le temps, ce sont les métiers du Louvre. Parce que ça, je crois que c'est quelque chose d'important que les gens ne savent pas. C'est que le Louvre, au-delà des collections, c'est un véritable conservatoire des métiers. Et que la richesse est aussi bien les œuvres que les hommes, en quelque sorte. Et puis ça me fait plaisir de les voir lire. Parce que tout à l'heure, je citais cette phrase de Cézanne. Ah, oui. Livre où nous avons appris à lire. Et je crois que c'est une admirable métaphore, en quelque sorte, de ce qu'est le Louvre. Et vous montrez tout dans une seule image.
Alors, pour conclure, on va vous montrer une autre petite vidéo de 5 minutes où on parle du Dante de Landino et on va finir par une surprise. Alors, je vous laisse découvrir. Mais
je précise juste une chose, les livres précieux qui sont là étaient tous emballés ou sur des produits qui les isolaient, au pH neutre, etc. C'est-à-dire que c'était d'autant plus compliqué. Rendre la chose...
On ne te croit pas.
Si, si, si.
Par ici, on va dans la cité des souffrances. Par ici, on va dans l'éternelle douleur. Par ici, on va parmi les gens perdus. C'est la justice qui a inspiré mon Créateur. Ma nature est faite de puissance divine, de la sagesse suprême et du premier amour. Avant moi, rien ne fut créé, si ce n'est d'éternel, et moi je dure éternellement. Laissez toute espérance, vous qui entrez. Ces sombres paroles, je les vis inscrites au fronton d'une porte. Aussitôt je dis, Maître, leur sens m'est dur.
Alors on va parler du livre que Jean-Philippe a choisi pour l'exposition, qui est le Dante de Landino. On l'appelle le Dante de Landino. C'est la 8e édition du Dante, historiquement, et c'est la première édition illustrée.
De reprendre sur 9 tablettes électroniques le même chant 3 en différentes langues. Alors on trouve en fait, là je vois du grec, du chinois, du japonais, du russe.
Une grande partie du travail c'est de la production vidéo en fait. On est parti d'une vidéo réelle, d'une page qui prend feu et il a fallu la transformer en un masque qui mange petit à petit les caractères à l'écran. Et en fait, pour faire ça, il y a eu un assez long travail, image par image, pour découper la page avec le feu.
Ah, c'est Patrick qui l'a mis. Attends, j'appuie.
Vous comptez quoi, 1, 2, 3? Non, c'est pas grave.
Vous faites quoi? Oui, décidez quoi on fait.
Explique-nous, tu fais 3, 2, 1, top
ou... 3, 2, 1 et on pousse à top.
Voilà, 3, okay. 2,
3, 2, 1, top.
Il y a un truc, vite.
C'est raté. Celui-là est raté.
Qui est responsable de celui-là?
C'est pas grave, on recommence. Okay. On recommence.
Sans toucher les... Exactement. Et maintenant, on va repousser. D'accord.
Pas mal, hein?
Il est toujours intéressant qu'un écrivain comme Jean-Philippe Toussaint puisse indiquer l'importance qu'a qu'il a éprouvé en lisant Samuel Beckett. Et il est certain, il le dit très bien dans L'urgence et la patience, avec aussi bien de l'intelligence que de l'émotion. Il dit bien à quel point Samuel Beckett a joué un rôle fondamental pour lui dans son travail.
Et quand on sait que l'écrivain préféré de Beckett, son exclu Joyce, c'était peut-être Dante, je suis finalement très heureux de donner à Beckett un voisin aussi éminent et de faire voisiner dans l'exposition Beckett et Dante. Je suis sûr que Beckett aurait été ravi de ce voisinage. Et ce qui me touche aussi, c'est que, en fait, dans cette exposition consacrée aux livres, où je présente quand même une dizaine de pièces différentes, les seules traces manuscrites, c'est quelques mots, quelques lignes de Beckett dans le manuscrit d'En attendant Godot. Ce manuscrit original d'En attendant Godot, en réalité, il n'a jamais été montré. Et en 2006, la famille Lindon en a fait don à la Bibliothèque nationale. Eh bien, nous vous remercions et nous vous donnons rendez-vous à 20h au Musée des arts décoratifs et du design.